Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on passe à la seconde. On envisage la seconde conférence. Je vais peut-être très vite vous présenter les intervenants de cette seconde conférence. Donc, pour rappel, le sujet de la seconde conférence, c'est peut-on faire disparaître la corruption? Il y a un petit texte qui a introduit la seconde conférence. Je vous mets le lien dans le chat. Je viens d'arriver. C'est quoi l'histoire des bons du Trésor italien? Alors, c'est quelqu'un dans le chat qui posait. Et t'as une question si je te permets, mais te pose ta question, PowerShelling, tu es tout à fait autorisé, je suis là pour ça. Donc l'histoire des bons du trésor en italien, je réponds le gros, en attendant, je réponds le gros gag. Ah bah alors, je ne les connais pas, je ne sais pas qui c'est PowerShelling, je peux pas te répondre. Et puis en plus, ce que j'en pense, c'est pas très important, ce qui est important, c'est ce que vous en pensez, vous. L'histoire des bons du trésor italien, c'est que apparemment l'Italie aurait annoncé, le gouvernement italien aurait annoncé qu'ils allaient émettre des sortes de bons du trésor. Qui pourrait être acheté par les particuliers. Autrement dit, c'est demander un prêt aux particuliers d'une certaine manière. Parce que des bons du trésor, faut les rembourser un jour ou l'autre. Et j'ai dit des sortes de bons du trésor parce que pareil, enfin, j'ai appris le truc avec la question du mec, donc je ne sais pas exactement de quoi il est question. Et ces bons du trésor, ces sortes de bons du trésor, parce que des bons du trésor, vous pouvez en acheter, vous pouvez prêter à l'État français en achetant des bons du trésor. Mais vous pouvez pas vous balader avec votre bon du trésor et dire, bah tiens, je vais acheter mon pain avec mon bon du trésor. Ça marche pas comme ça. C'est pas une, c'est, ça peut servir de, enfin, vous pouvez vous en servir pour, vous pouvez acheter des parts. Mais bon, ce que vous faites en général quand vous avez des bons du trésor, c'est que vous vendez vos bons du trésor, vous récupérez des euros et avec vos euros, vous achetez ce que vous devez acheter. Vous achetez pas directement avec vos bons du trésor. Là, apparemment, le projet de l'Italie était de faire en sorte que ça soit faisable. Ce qui revient d'une certaine manière à dire que c'est le gouvernement italien qui reprend dans ses mains le fait la création monétaire en Italie. Ce qui évidemment est interdit en Europe. Déjà, c'est interdit à cause de enfin, par l'existence de la Banque Centrale Européenne, qui est la seule qui en mesure d'imprimer de la monnaie, je mets de gros guillemets à imprimer parce que c'est pas comme ça que ça marche, mais on va simplifier comme ça. Mais en plus de ça, même pour les gouvernements nationaux, alors je sais pas, je suis pas expert sur l'Italie, donc je sais pas si c'était le cas en Italie, mais je pense que ça devait être le cas. En France, c'est pas le gouvernement français qui avait la main sur la création avant l'existence de la BCE, c'était pas le gouvernement français qui avait la main sur la création monétaire en France, c'était la Banque de France. Et la Banque de France, elle était indépendante, elle était d'ailleurs, elle l'est toujours. On a vu son directeur là, François Villeroy de Galhau. La Banque de France, elle est indépendante du gouvernement français. C'est-à-dire que son gouverneur, il est nommé tous les, je sais pas, 5 ans, 10 ans, je sais pas tous les combien, par l'État, enfin par le gouvernement, mais une fois qu'il est nommé, d'une, son mandat est unique, il ne peut pas être renouvelé, donc il n'a pas à se soucier de est-ce qu'il fait bien son boulot ou pas pour être rechoisi après. D'autre, il ne peut pas être révoqué, ou en tout cas pas par le gouvernement français. Troisième point, il a un mandat, c'est-à-dire il a des objectifs, et il ne doit se soucier de ses objectifs et que de ses objectifs. Donc par exemple pour la Banque Centrale Européenne, les objectifs, c'est de rester à 1 ou 2%, je sais pas, d'inflation par an. Mais par exemple, dans ses objectifs, il n'y a pas sauver tel ou tel pays. Donc c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne, quand la Grèce a des problèmes, elle fait pas d'efforts, parce que c'est pas dans ses objectifs. Son objectif unique, c'est de maintenir l'inflation autour de 1%. Elle n'a pas dans ses objectifs le fait de maintenir, enfin d'aider à l'investissement, d'aider à l'export, d'aider à l'import, de contrôler le taux de chômage, etc., etc. Et donc voilà. Et donc le gouverneur de la Banque de France dit donc à la question sur les bons du Trésor italien, il dit bon alors d'une ça n'a pas été fait et de deux franchement ça ressemble pas à de la monnaie et avant que ça en soit une. Ça risque d'être compliqué et si ça le devenait, ce serait très problématique parce que ça remettrait en cause beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'euro. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à vos questions. Bon, je vais pas vous mentir, je comprends pas tout, mais ça m'intéresse grandement. Écoute, Verdun Subutex, si jamais j'utilise des termes techniques, n'hésitez pas à me dire parce que je me rends pas forcément compte, mais je fais ce que je peux. La corruption existe, on m'aurait menti. Oui, la corruption existe, j'aime pas les pseudos. On suppose qu'il y a 3% des échanges de la planète qui seraient des pots de vin, donc je te confirme que ça existe, quoi. Intéressant ton stream en tout cas, car j'apprends pas mal de choses. Bien écoute, merci, merci à toi, PowerShelling. Merci à toi et n'hésite pas à follow ce, tout ça. Hein. Pareil, je dis ça pour toi, mais pour les autres aussi. J'ai une question. Quelle est la différence entre un quantitative easing et les flux d'argent créés constamment par les banques privées lors de nouveaux emprunts? Faudrait rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un quantitative easing. Et je suis pas sûr d'avoir le temps, ni même d'être suffisamment au point pour le faire là tout de suite. Faudrait que je révise un peu. Disons que dans un quantitative easing, tu mets en place des mécanismes pour inciter au crédit, pour inciter les banques à prêter plus d'argent. Le seul souci, c'est que, alors ça a marché dans une certaine mesure, mais il y a eu plusieurs quantitative easing, il y a eu plusieurs phases, trois si je ne dis pas de bêtises. Le seul souci, c'est que, enfin, il y a une partie des économistes qui se regardent ce truc-là, notamment un des premiers à avoir gueulé sur le sujet, c'était Paul Krugman. C'était Krugman qui disait, enfin lui et d'autres, qui disaient vos quantitative easing, ils sont trop faibles pour lutter contre la crise dans laquelle on est, la crise des subprimes 2008 et ses effets sur l'économie. Il faut diffuser beaucoup plus de pognon d'un coup. Et un peu, enfin, les faits lui ont un peu donné raison, puisqu'il a fallu trois quantitative easing pour réussir à limiter la casse, là où peut-être que un seul beaucoup plus gros ou que deux beaucoup plus gros aurait pu y arriver. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Oui, et peut-être autre truc. Alors, il y a une vidéo de Reka qui explique très bien ça, mieux que je ne pourrais le faire là tout de suite. Mais je ne saurais pas laquelle vous dire laquelle c'est, mais elle doit s'appeler quantitative easing ou un truc comme ça, où il montre bien que la création monétaire aujourd'hui, elle a un souci qui est qu'elle passe par les crédits faits par les banques et que du coup, ça. À qui est-ce qu'on prête? On prête aux gens qui ont déjà, qui ont ce qu'on appelle un collatéral, c'est-à-dire qui ont vous voulez emprunter, vous avez déjà du capital de côté, qui ont un merde, comment ça, ah putain, c'est un apport, pardon, voilà. Qui ont un apport, c'est-à-dire si vous voulez acheter un appart à 200 000 euros, on va vous demander 25 000, 30 000, 40 000 euros d'apport et vous prêtez les 160 000 qui restent. Mais donc on prête uniquement à des gens qui ont déjà de l'argent. Et on prête beaucoup moins à ceux qui ont peu d'argent. Et que du coup, la diffusion de ce nouvel argent, entre guillemets, suite au quantitative easing, se retrouve dans des cercles et tourne en rond et ne se retrouve que peu injecté dans l'économie réelle parce que ça reste dans des comptes épargnants et ça se retrouve, enfin, ça. Le risque, c'est que ça ne se retrouve que sur le marché secondaire boursier, c'est-à-dire en gros le marché de vente et de rachat d'actions entre j'allais dire entre particuliers, non, mais je veux dire qui n'est pas le marché primaire, c'est-à-dire qui n'est pas le marché où on prête de l'argent à des entreprises qui se créent, etc., etc., mais qui est le marché où vous vendez vos actions à la hausse ou à la baisse, etc. Et voilà. Et que du coup, ça ne profite que très peu à l'économie réelle. C'est-à-dire en gros que ça ne vienne très peu améliorer la consommation, les salaires, etc., etc., mais que ça a comme principal effet, enfin, le risque c'est que ça ait comme principal effet simplement de créer des bulles sur les marchés financiers en augmentant, en faisant s'envoler les prix des actifs financiers. Voilà, la vidéo de Eureka vous expliquera ça mieux que moi, je pense. Est-ce qu'il y a des banques centrales dépendantes de leur gouvernement dans le monde? Oui. Par exemple, enfin oui, par exemple, la banque centrale chinoise, qui sur le papier doit être indépendante, je pense, à vérifier, mais qui dans les faits l'est évidemment pas du tout. Voilà. J'ai aucune culture économique. Est-ce qu'un jour on finira avec des entreprises État au-dessus des pays? C'est crédible? Ça dépend à qui tu demandes. Moi, j'ai envie de te dire que si, et là, c'est un avis, je vous le dis, c'est un avis perso. Je sais pas, c'est pas, y a pas, enfin voilà quoi. Je pense qu'effectivement, il y a certaines entreprises, si on ne fait pas gaffe à la concentration des pouvoirs qu'elles peuvent avoir, je pense là encore plus à Facebook, à Google qu'à Facebook. Il y a moyen que ces entreprises se retrouvent avec un levier extrêmement puissant dans le rapport de force. de manière à se retrouver dans une position suffisante pour exiger des avantages pour leurs salariés, etc., etc. Maintenant, c'est un avis. Il y a des gens qui vous diraient que non, il n'y a aucun risque, et voilà, j'en sais rien. Très franchement, voilà. Bon, je vous propose qu'on passe à la table ronde suivante, les amis. La table ronde suivante qui s'appelle donc Peut-on faire disparaître la corruption? Je vais vous présenter très rapidement les intervenants et intervenantes. Le monsieur qui va passer la parole, il s'appelle Christian Schubert. Il est journaliste de formation avec un master en économie quand même, et correspondant sur les questions d'économie. Il a été donc pour des journaux allemands, un truc qui s'appelle FAZ, FAZ. Pardon, je ne connais pas. Visiblement, c'est à Francfort. Et lui a été correspondant à Londres, pardon, et à Paris depuis 2004. Mais donc, comme souvent sur cette table ronde, c'est un journaliste qui passe la parole. Autre intervenant, Emmanuel Auriol. Emmanuel Auriol, pardon. Emmanuel Auriol, c'est une économiste. Elle a fait respectivement une licence d'économie, un master recherche d'économétrie au sein du magistère d'économie statisticien, je pense à Toulouse, qui est le même diplôme que moi, Cocorico, sauf que moi je l'ai fait à Paris, Cocorico d'en face. Ensuite, un doctorat en économie à l'université de Toulouse, agrégation des universités d'économie. Ensuite, postdoc à Berkeley notamment. Je crois que c'est elle qui. Est-ce que Auriol elle avait reçu prix du meilleur jeune économiste ou je sais pas quoi, un truc comme ça? Ça doit être. Je sais pas, on va voir. Maître de conférence à l'université de Toulouse, professeur d'économie à l'université d'Aix-Marseille 2, professeur associé à l'école polytechnique, chargé de mission pôle compétitivité de l'AESE auprès du président. L'AESE, c'est. Alors attendez, je ne sais plus exactement ce que veulent dire les initiales. Hop, 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 hop. Bon, je le trouve pas, on s'en fout. Merde, où est sa fiche? On va revenir. Manuel Auriol, où es-tu? Tu es là. Voilà. Et elle est aujourd'hui professeure d'économie à la Toulouse School of Economics à l'université de Toulouse. Elle a reçu plein de prix d'économie de l'Association française des banques, médaillée du CNRS. Prix du meilleur livre d'économie de l'Association française d'économie pour son livre Pour en finir avec les mafias, donc évidemment c'est pertinent sur la question de la corruption. Et elle est membre du Conseil d'analyse économique de 2018 à 2020. Elle a publié plein de papiers, je vous invite à aller voir ça sur sa fiche. Mais donc un livre Pour en finir avec les mafias, et donc elle pourra probablement parler de ça lors de cette table sur la corruption. Autre invitée, Lisa Ossowski. Lisa Ossowski, elle est directrice du Serious Fraud Office. Le Serious Fraud Office, c'est un service, c'est une organisation du gouvernement anglais en charge de la lutte contre la fraude et la corruption. Avant cela, elle a. Alors attendez, on va essayer de le faire dans l'ordre. Elle est avocate de formation, avocate dans la lutte contre la corruption, diplômée, enfin membre du barreau en 97. Elle a bossé dans des organismes de contrôle des risques en Angleterre. Elle a bossé chez Goldman Sachs, elle était en charge du groupe de business intelligence et de lutte contre enfin de comment on dit de pas de lutte de reporting de qui faisait des recherches sur les questions de money laundering, donc de blanchissement d'argent. Avant Goldman Sachs, elle était ethics officer pour le FBI, donc agent qui sur les questions d'éthique pour le FBI. Elle a été procureure dans la section fraude de la division criminelle du département de justice, donc du ministère de la Justice américain. Elle a bossé auprès de juges, elle a commencé sa carrière auprès de juges aux États-Unis. Voilà, elle est diplômée de Harvard et de l'Amherst College, que je ne connais pas. Autre invitée, qui, je l'espère, sera la plus intéressante, surtout vu le titre d'un de ses bouquins, vous allez voir, le docteur Ngozi Okonjo-Iweala. Aujourd'hui, elle est patronne d'une organisation qui s'appelle Gavi. Gavi, c'est Global Alliance for Vaccines and Immunization, donc un truc en charge de la vaccine, enfin, une organisation pour la promotion des vaccins et j'imagine surtout en Afrique. Ils ont vacciné plus de 580 millions d'enfants depuis l'an 2000. Mais surtout, avant ça, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était ministre des Finances du Nigeria. Elle a été brièvement aussi ministre des Affaires étrangères en 2006, mais elle a été ministre des Finances entre 2003 et 2006 et entre 2011 et 2015. Elle a travaillé à la Banque mondiale en tant qu'économiste sur les questions de développement. Elle a notamment été numéro 2 apparemment. Elle a été membre de plein de classements sur les personnes les plus importantes du monde, d'Afrique, les femmes les plus importantes, etc. Elle appartient à plein d'organisations, genre l'Union africaine sur la régulation des risques bancaires et plein d'autres Women's World Banking, International Commission on Financing Global Education, plein de trucs comme ça. Tax Inspectors Without Borders, donc les inspecteurs des taxes sans frontières, c'est rigolo, je ne savais pas que ça existait. À l'OCDE, etc., etc. Elle a reçu plein de prix. Mais surtout, ce qui me fait penser qu'elle risque d'avoir un point de vue très intéressant dans la table ronde qui va suivre, c'est qu'elle a écrit plusieurs bouquins. Un premier qui s'appelle The Debt Trapped in Nigeria Towards a Sustainable Debt Strategy, donc le piège de la dette au Nigeria vers une stratégie de dette soutenable. Réformer l'irréformable des leçons du Nigeria et un troisième bouquin dont le titre est quand même extrêmement intrigant, je trouve, à savoir Combattre la corruption est dangereux, deux points, l'histoire derrière les gros titres de presse, sans doute forte de son expérience en tant que ministre des Finances du Nigeria. Et par ailleurs, elle est diplômée de Harvard et du MIT, deux très grandes universités américaines. Et enfin, quatrième et dernier intervenant, Michel Sapin. Michel Sapin, c'est un ancien ministre de l'économie et des finances français, donc politique français, ancien ministre. Il a été formé à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et à l'ENA. Il a rejoint le PS en 75. Il a gagné sa première élection en 81 à 29 ans. Il a été député 5 fois. Deux fois vice-président de l'Assemblée nationale, président de la commission des lois de 88 à 91. Depuis 91, il a été ministre à plusieurs reprises. Il a été adjoint au ministère de la Justice. Alors attendez, député ministère of Justice, je ne sais pas ce que ça veut dire pour eux, mais je me demande si c'est pas secrétaire d'État. Michel Sapin, je pense que ça doit être secrétaire d'État. Attendez, je regarde, je regarde, je regarde. Ministre délégué à la justice, pardon. Donc, non, pas secrétaire d'État. Donc, ministre délégué à la justice entre 91 et 92. Ministre de l'économie et des finances entre 92 et 93. Bon, président conseil régional, maire, etc., etc. Ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État de 2000 à 2002. Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social de 2012 à 2014. Ministre de l'économie et des finances à nouveau de 2014 à 2017. Donc à la fois pardon, Mitterrand, pas sous Jospin, non pas sous Jospin si sous Jospin effectivement, pardon, entre 2000 et 2002 sous Jospin sous Hollande. Quoi d'autre sur Michel Sapin? Attendez, je lis président de région et donc parmi notamment, enfin pendant ses mandats, deux lois importantes, les lois Sapin 1 et Sapin 2. Le Sapin 1 c'est 93 et Sapin 2 c'est 2016. qui lutte contre la corruption et pour la transparence dans les secteurs des affaires, de l'économie, etc., etc. Merci PowerShelling pour ce nouveau cadeau de sub à Swaggycarp. Merci à toi. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur, enfin si vous découvrez Acropolis grâce à la mise en avant Twitch, et on remercie Twitch pour ça, n'hésitez pas à follow la chaîne, c'est le bouton qui est là-haut. Également en faire un don éventuellement si vous voulez nous soutenir à plus d'émissions comme ça où on parle d'économie, de finances, de politique internationale ou nationale, etc., etc. Et à sub, tout ça, les amis, voilà. Et vous pouvez nous suivre également sur Twitter et Instagram, tout ça. On va commencer cette seconde table ronde. Alors attends, si t'arrives à nous faire une pause dès qu'on a un plan large, c'est cool. Histoire que je vous dise qui est qui. Alors je vous demande si... Quoi?
Magnifique overlay.
Ouais, magnifique overlay de la part des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Non, mais laisse dérouler, on va voir. Hein. Comme ça, j'essaie de vous présenter qui est qui. Donc là, on avait le journaliste qui présentait Christian Schubert. Elle, c'est Madame Ossowski, Lisa Ossowski. À sa droite, donc à votre gauche, vous avez Ngozi Okonjo-Iweala, que vous voyez donc tout là-bas. Et ensuite Michel Sapin encore derrière. Bon, ils font joujou avec la caméra. Salut, je suis arrivé en cours de live, j'ai loupé quoi SVP? Salut Arthur Richer. Alors tu pourras retrouver le replay sur YouTube. Je vous mets le point d'exclamation YT dans le chat. Et tu as raté la première table ronde qui parlait de monnaie et notamment de crypto-monnaie, de Libra, etc. Assez intéressante. Et de ce qu'en pensent les banques centrales, etc. Tu pourras retrouver ça sur le replay. Et là, maintenant, on va parler corruption avec d'anciens ministres des Finances et des chargés de lutte contre la corruption, plus une économiste qui a écrit sur les mafias.
Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou...
C'est qui ça?
C'était Chirac, je crois.
Ok. Merci PowerShelling pour ce troisième cadeau énigmatique. Merci à toi, c'est hyper gentil d'offrir autant de subs. C'est super gentil. Et alors moi, faut que je trouve comment changer mon sub en Prime. C'est l'enfer. Première fois que je fais ça. Voir toutes les œuvres, j'en fous de toutes les œuvres de Prime. En attendant que ça commence, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'y réponds avant que...
Je vous souhaite le bienvenu à votre...
Soit Geekerp, n'hésite pas à follow si t'es nouveau sur la chaîne.
Peut-on faire disparaître la corruption?
Merci Trix pour ton sub. Merci à toi pour ton 12e mois de soutien. 12 ans, 1 an. Joyeux anniversaire.
Je suis journaliste pour le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung. On a un sujet très très intéressant qui touche beaucoup de monde, peut-être aussi les journalistes. Tout le monde doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut accepter? Est-ce qu'on accepte, par exemple, des voyages de presse qui sont parfois un peu généreux, des invitations aussi, qui sont parfois un peu généreux? C'est aussi des questions pour les journalistes. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter des invités qui sont très, très hautement qualifiés, très impressionnants. D'abord, et c'est l'ordre dans lequel on va parler, l'introduction va être faite par Emmanuel Auriol, économiste du Cercle des économistes. Elle travaille au Toulouse School of Economics et elle fait partie aussi du Conseil d'analyse économique. Et après, je vous présente Madame Okonjo-Iweala, qui est aujourd'hui présidente de Gavi. C'est une alliance mondiale pour la vaccination qui a aidé à la vaccination de 580 millions d'enfants. Madame Okonjo-Iweala était deux fois ministre de Finances de
Et merci à moi-même pour ce deuxième mois de soutien.
Affaires étrangères. Elle vient
Abonnez,
de
ab
publier
abonnez-toi, yes, nickel. Abonnez-toi, fais des dons, mets la cloche.
Est dangereux. Elle va nous parler, par exemple, du fait que sa mère était kidnappée à Nigeria.
C'est quoi ce qu'elle a autour du
Ça montre
cou?
que
Tu parles de la blonde, elle là. C'est ouais pour entendre la traduction. C'est un truc tu le tiens comme ça, tu le mets sur tes oreilles. Enfin, tu fais rentrer les machins dans tes oreilles. Et t'as un traducteur qui traduit.
Lisa Ossowski qui gère le Serious Fraud Office d'Angleterre de Royaume-Uni depuis l'année dernière. Madame,
tu avais une formation de loi sapin si tu avais un support, ça m'intéresserait, Captain Follet. Si tu avais, je sais pas, des slides ou un truc comme ça, je serais curieux de voir ce qu'il y a dedans.
Comme vous avez dit,
si tu as le droit de le partager,
récemment,
évidemment.
Dans une interview, parfois, vous pouvez dire au cadre coincé, vous pouvez passer 20 ans en prison ou vous pouvez porter un micro et travailler avec nous. Alors, ça, c'est pas un film, ça, c'est le travail parfois de Madame Ossowski. Madame Ossowski était aussi employée dans le privé. Elle a travaillé pour Goldman Sachs, HSBC.
Merci pour Orcheli. Ben, reste avec nous hein, pour l'instant.
Contre le blanchiment.
On est là jusque vers midi à peu près.
Et après, bien sûr,
I didn't work for HSBC. I worked in a role where we looked at HSBC's and money laundering and sanctions controls.
Donc elle veut faire une correction, elle dit qu'elle n'a pas travaillé pour HSBC, mais elle a travaillé...
Très bien, merci pour cette
En tant que consultante pour HSBC, pour voir l'éventuel cas de corruption dans HSBC.
Monsieur Michel Sapin, qui était aussi d'ailleurs deux fois ministre de Finances, aussi ministre du Travail.
Il a dit que ne pensez-vous pas que la corruption est parfois un gain de temps. Parce que te dirait Emmanuel Auriol, je pense, c'est que ça a un impact sur la croissance et la confiance dans les pays.
Sapin 2, et c'était la loi qui... la loi qui a changé beaucoup de choses par rapport à la corruption en France.
Mais lui, c'est Michel Sapin, ministre de l'économie.
Après. Alors,
ancien ministre de l'économie et des finances, pardon.
À Emmanuel Auriol pour donner l'introduction.
Emmanuel Auriol qui est tout là-bas.
Bienvenue à tout le monde. Je ne vais pas parler très très longtemps parce que franchement, avec un panel pareil sur la corruption, on ne peut pas faire mieux. Ce que je voudrais dire, c'est juste que la corruption, c'est quelque chose qui varie beaucoup à travers le monde. Et il y a une corrélation très forte entre la richesse d'un pays et la corruption. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus de corruption dans les pays pauvres que dans les pays riches. Et au niveau des continents, hein, des régions du monde, la région la plus corrompue selon Transparency International, c'est l'Afrique subsaharienne. La région du monde la moins corrompue, c'est l'Union européenne, hein, c'est l'Europe. Donc c'est intéressant parce qu'on a un panel justement qui reflète ces deux extrêmes. Et je crois, j'ai pas réussi à avoir quelqu'un de corrompu qui serait un repenti qui pourrait parler, mais j'ai des gens qui se battent pour combattre la corruption, des fois au péril de leur vie. Donc je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir ce panel. Alors, pourquoi il y a ces différences de niveau ? Ben, il y a aussi une différence de nature de la corruption. Donc, la corruption, la grande corruption, celle qui touche les marchés publics, les hauts fonctionnaires, les chefs d'entreprise, elle est mondiale. Hein. C'est une forme de capture, c'est-à-dire que c'est le corrompu et le corrompant qui s'entendent, hein, sur le dos des contribuables en général et des consommateurs. Celle-là, elle est très difficile à combattre parce qu'effectivement, nous, les consommateurs et les contribuables, on n'est pas organisés, on ne voit pas ces crimes, on ne sait pas combien coûte un pont, hein, s'il coûte 1 milliard ou 2 milliards, on n'en a aucune idée, on n'achète pas.
Vous avez déjà corrompu quelqu'un, vous ?
On est mal armé pour lutter contre ça. Dans les pays pauvres, il y a une autre forme de corruption, c'est l'extorsion. Donc c'est une corruption de petit niveau.
Moi, il est occupé en ce moment en Balkany.
Dans ma vie, c'était toujours à la police, ils avaient des armes. Et donc effectivement, quand quelqu'un d'armée vous dit qu'il faut payer un pot de vin, vous le faites. Et ça s'appelle de l'extorsion. Moi, je ne voulais pas payer un pot de vin, ça me blessait de payer ce pot de vin, mais je n'avais pas le choix. Cette forme de corruption-là, elle est beaucoup plus facile à combattre, évidemment, puisque la personne qui paye le pot de vin ne veut pas le payer. Hein. Donc si vous voulez vraiment combattre cette corruption de petit niveau qui est de l'extorsion, vous y arrivez. Le problème, ça demande plusieurs choses, en particulier de payer les fonctionnaires correctement, hein, qu'ils aient un salaire décent, qu'ils ne soient pas obligés de compléter leurs revenus, et d'autre part, hein, de vouloir vraiment agir contre cette corruption. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il faut s'attaquer en priorité à la grande corruption.
Elle citait Transparency International, hein, Soxanal.
Moi, je ne suis pas tout à fait sûre. Je pense qu'il faut s'attaquer peut-être d'abord à la petite, parce qu'elle est partout et elle heurte absolument tout le monde, et elle est plus facile à résoudre. D'accord ? La grande, il faut bien sûr s'y attaquer aussi, mais c'est une autre paire de manches, comme on le voit dans les pays riches. Et il y a des pays qui ont réussi à faire ça, donc je pense que c'est intéressant de regarder ce qu'ils ont fait, notamment Hong Kong et Singapour, qui ont réussi à totalement, pas à éradiquer la corruption, mais en tout cas à bien la diminuer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, il y a des tas de choses qu'ils ont faites, mais d'abord, ils payent bien les gens. ils surveillent les gens, ça ne suffit pas bien de les payer, hein. Il faut les payer, mais aussi qu'on contrôle leur travail, hein, et qu'ils soient punis s'ils font des choses qui ne vont pas. Donc comme les usagers sont heurtés par la petite corruption, vous pouvez collecter...
C'est combien Védermousse
maintenant les nouvelles technologies, des plaintes,
donne-nous
par exemple, et les instrumenter. Donc ça, c'est une chose possible. L'autre chose qu'ils ont faite, qui est très astucieuse, et je ne trouve pas qu'on aille dans cette direction, nous, c'est qu'il y a la charge de la preuve sur les usagers et les contribuables. C'est-à-dire, si vous avez $1 million, soit vous êtes capable de justifier d'où vient $1 million, soit on vous le confisque, parce qu'on suppose que c'est de la corruption. Donc, vous voyez, d'inverser la charge de la preuve et d'être très strict là-dessus, évidemment, ça a des résultats. Alors, on va discuter après de procédures aussi, de règles, mais ces règles, elles ne marchent que si elles sont déclinées concrètement après par des actions. Et donc, je pense que des fois, on a un petit peu du corruption washing, hein, on essaye de prétendre qu'on fait des choses et on ne les fait pas vraiment. Voilà, il y a des choses à faire, mais qui demandent effectivement d'attaquer des gens, les mettre en prison. C'est un peu délicat. Donc, je vais maintenant passer la parole, bien sûr, à nos panélistes qui sont certainement parmi les gens sur la planète qui existe sur ce sujet, parmi les plus compétents, et j'espère que vous les torturerez après avec des tas de questions.
Voilà l'introduction d'Emmanuel Auriol, qui, je le rappelle, a écrit un bouquin qui s'appelle
Madame
faut-il
Ocon,
alors pardon, quel titre du
Bonjour
bouquin
tous,
précisément, pour en finir avec les mafias.
C'est très gentil de m'avoir invité une deuxième fois, mais pour aller vite, je pense que c'est mieux que je m'exprime en anglais. Hein? Okay, I want to make 3 points following on the summary.
Alors, elle a trois propos à tenir. Un, la corruption est globale.
It's not a developing country thing, it's global.
Ça existe
and
partout.
The biggest form of corruption is in public procurement and public contracting. The OECD, the EU,
la plus grosse corruption, c'est dans les contrats publics.
13-20% of their GDP on procurement, about $9.5 trillion globally.
9,5 trilliards de dollars. Alors, je ne sais pas ce qu'elle entend par trilliard, parce que vous savez que c'est pas la même chose en français et en anglais. Donc.
Second, and if you look at the recent examples, you will see from Odebrecht in Brazil and so on and so forth that this is a serious problem. The World Bank estimates $1 trillion in bribes. Globally.
Donc 1 000 milliards chez nous et de Taylor, c'est 9,5 milliards.
There are three types of corruption that have been defined in the literature, and I think that Emmanuel mentioned them, but there is one. So you have the grand corruption, you have the petty corruption.
Trois types de corruption. Grande
corruption
in developed
countries, petty corruption mostly
petite corruption
in developing countries in Africa, but there's also political corruption.
Et corruption politique.
Influence peddling, using your influence to divert resources to yourself, your
c'est-à-dire
friends,
utiliser c'est-à-dire faire Poutine quoi, utiliser votre influence pour envoyer les flux financiers vers votre compte en banque privée.
Yes, there's
hashtag Tropico.
Corruption is global. But corruption in poor countries has a worse impact because they are poor.
La petite corruption, c'est celle qui a le pire impact. La petite corruption dans les pays pauvres.
In the US, 63,000 per capita. For sub-Saharan Africa, it's about 3,800. So if you divert resources for corruption in a continent or countries that are poorer, that means you're taking away services for health. Services for education, money for infrastructure.
Parce que même si en volume c'est moins gros, en proportion c'est bien plus important et surtout l'argent qui est détourné est bien plus essentiel puisque il est question de services de santé, d'éducation, etc. Bien plus que dans les pays riches.
The finance minister a few years ago asked the former president of South Africa Thabo Mbeki to do a study of illicit financial flows, and he found that $50 billion flows out of Africa every year.
50 milliards de dollars illicit flows. And flows dans des flux illicites sortent d'Afrique chaque année, principalement vers des pays développés.
Western Europe, in the US and so on, in tax havens, they are also part of the problem. So in Africa, we cannot afford to lose those kinds of.
L'Europe de l'Ouest et les tax havens, les paradis financiers sont aussi un problème. Il y a énormément d'argent détourné qui dort dans les paradis financiers, d'argent détourné en Afrique.
And then, as you know, poverty is concentrating on the continent in Africa. So about 50% of the world's poor are being found on the continent. So if we are going
to fight poverty, des pauvres du monde sont en Afrique.
We need to do something about corruption.
Donc la corruption fait encore plus mal en Afrique que partout ailleurs.
The third point I'd like to make has to do with what underpins corruption. And that third point is that corruption happens because of weak institutions, absence of systems and processes.
C'est l'absence de c'est des institutions faibles et l'absence de process cadrés qui permet l'émergence de la corruption. C'est son troisième
salaries
point.
You pay, there'll still be corruption. So you find that in many African countries systems are weak. What do I mean? In my own country when I was finance minister, initially I found that we didn't have the strong financial management systems. The electronic platform for transfer of resources. If you don't have that, what happens? You have people who can squirrel away government resources into their own pockets.
Comme il n'y avait pas les plateformes pour fliquer, en gros, regarder les transferts financiers dans son pays, eh bien, il n'y avait pas moyen de monitorer et donc c'était facile pour tout le monde de détourner du pognon.
Or monies into their pockets. And that's partly what this book is about. I'll come back to it. Okay. I'm out of time.
Yeah. Thank you very much.
Elle reviendra sur son bouquin. Là, elle est à court de temps. Donc ces trois points, c'est la corruption est globale, mais c'est la petite corruption qui fait le plus mal, et ça permet, et c'est les institutions faibles qui permettent à la corruption d'apparaître.
In answer to the main question, can we eradicate corruption? I have a one-word answer. No.
Est-ce qu'on peut éradiquer la corruption en un mot? Non.
A recession-proof business.
Du coup, mon boulot est toujours à l'abri, même des récessions.
Every part of the globe, it evolves. It's different today than it was in the Roman Empire, but it still exists. And I believe that as
ça a toujours existé, ça existera toujours, même depuis l'Empire romain.
It's a human condition.
C'est dans le caractère de l'humain.
People who are willing to be brave. To stamp out corruption, you need independent prosecutors who are not interfered with and who are allowed to get.
Il faut des procureurs indépendants et des gens courageux pour se battre contre la corruption, des juges qui n'ont pas peur.
Cower when they're faced with even personal harm, as we know they are in different parts of the world, and it means developing an ethos among crime fighters. So it's a real commitment. To the task, as well as the systems, as you say, that need to back that up. It also means vigilance and adapting our tactics.
Il faut de la vigilance et s'adapter dans nos techniques de lutte contre la corruption.
When the bad guys went from analog to digital, we too must follow and then learn to try to.
Il faut s'adapter aux nouvelles techniques des escrocs.
Fresh thinking to the table, and one of the things that the UK has done. In the past decade, is to work on creating sensible economic initiatives. In many areas, employees of organizations pay bribes to solve their employers' problems.
Donc, le Royaume-Uni, ils ont essayé de mettre en place des systèmes économiques pour désinciter à la corruption.
Your infrastructure project or customs fees. These are can be expensive, and remember. These aren't the sorts of dope dealers that were getting rich and riding around in Rolls-Royce Corniches. These are employees of companies that are.
La corruption, c'est pas que des grands mafieux, etc. C'est aussi des petits employés qui acceptent un bifton à droite à gauche. C'est pas juste du grand banditisme.
Without corporate criminal liability, It's in the organization's economic interest to look the other way.
Pour faire en sorte que ce ne soit plus dans l'intérêt des entreprises de regarder ailleurs quand il y a leurs salariés qui se laissent corrompre ou qui corrompent avec les bonnes incitations. Et donc, il faut faire en sorte que ce soit économiquement viable pour les entreprises de se mettre derrière la lutte contre la corruption plutôt que de regarder ailleurs.
And you start to get corporate engagement in making things better. And this was one of the goals of the UK Parliament in passing Section 7 of the UK Bribery Act 2010. So by making an organization responsible, that makes them engage with people like
en rendant les entreprises responsables, ça les incite à mettre en place les process pour lutter contre la corruption. C'est ce qu'ont fait certaines lois au Royaume-Uni.
And those of us who are watching from the anti-corruption world have seen the difference firsthand.
Et ça marche. Ceux qui luttent contre la corruption l'ont constaté.
Interests and economic motivations to make the companies come forward and act to prevent this crime is certainly a step in the right direction.
Et ces initiatives sont clairement un pas dans la bonne direction. C'est intéressant ce qu'elle dit. La corruption ne disparaîtra jamais. Venant de quelqu'un qui est spécialisé dans la lutte contre la corruption, c'est.
Il y a plus de pain que
une bonne chose à dire en vrai.
Cette partie-là de la France. Merci
c'est
infiniment.
La prononciation. Oui.
Merci de votre invitation.
J'ai pas entendu la blague.
Mauvais pour la schizophrénie.
Tu dis normal la blague. Merci.
Merci beaucoup, Madame Ossowski. Monsieur Lepin. Monsieur Sapin.
Monsieur Lepin. Ok.
Excusez-moi.
Il y a plus de pain que de sapin dans ce pays. Cette partie-là de la France. Merci
c'est
infiniment.
La prononciation. Oui,
merci de votre invitation, même si c'est très mauvais pour la schizophrénie habituelle chez les politiques, puisque ça m'oblige à parler à la troisième personne comme César, de la loi Sapin.
C'est ça.
Fini parmi habitués, puisque comme vous le savez, c'est la deuxième, donc à 25 ans. Ouais. Et à ceux qui posent la question de savoir quand sera la troisième, ce sera dans 25 ans, vous voyez dans quel état je serai. Alors, c'est un des sujets les plus simples à traiter, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui venait contredire en disant « moi, je suis favorable à la corruption
». Il n'a pas tort.
On est tous réunis à chaque fois pour dire « il faut dire non à la corruption ». Mais c'est un sujet très compliqué, parce qu'on est tous contre la corruption, et pourtant, il y en a. Et pourtant, c'est souvent... dans les études d'opinion, mais je n'ai même pas besoin d'avoir une étude d'opinion pour s'en rendre compte, une des causes principales, pas la seule, de cette perte de confiance, ou ce manque de confiance, qui est le sujet qui anime les débats au cours de ces trois jours. Et si vous posez la question, que ce soit sur les ronds-points, ou que ce soit sur les marchés de Bamako ou d'ailleurs, cette question de la manque de confiance dans les élites, de manque de confiance dans les élites administratives, politiques et économiques, à cause de la corruption, est un des sujets qui soit mine la démocratie lorsqu'elle existe, soit mine...
Bamako qui n'est pas du tout au Nigeria, c'est très raciste.
...pour les pays qui souhaitent le faire. Et donc, au fond, c'est comment peut-on être efficace pour lutter contre la corruption? Non pas, évidemment, la question est une fois de plus, mais c'est normal, un peu provocatrice, est-ce qu'on peut éradiquer la corruption? C'est comme si je vous demandais, est-ce qu'on peut éradiquer la bêtise humaine? Bon, la réponse est immédiate, non. Mais est-ce qu'on peut lutter efficacement contre la corruption? La réponse est oui. Et surtout, est-ce qu'on peut lutter contre la tolérance de la corruption? Oui. Il faut éradiquer.
Ah, c'est intéressant ça.
Tolérance,
ouais, il n'a pas tort.
Vis-à-vis de la corruption. Je vais vous raconter une anecdote. Il faut se méfier des anecdotes parce que ça va prendre beaucoup de temps sur le temps parental. J'allais le plus vite possible. Au moment où a été élaborée la première loi, la loi Sapin, elle avait comme objectif principal de lutter contre la corruption domestique, la corruption en France, d'entreprises françaises vis-à-vis d'acteurs politiques, administratifs français. J'ai à un moment donné, à la fin, un travail excellent qui a été fait. Certains dans la salle participaient déjà à l'époque à ce genre de travail. Je leur dis, mais il n'y a pas des problèmes à l'international? Alors, on m'a dit, non, monsieur le ministre, il n'y a aucun problème à l'international. Pourquoi? Il y a un bureau à Bercy. Il y a un bureau à Bercy. Oui, il y a un bureau à Bercy. On venait de s'installer à Bercy, où les entreprises viennent. Elles disent, bon voilà, j'étais obligé d'utiliser un petit argument commercial. Il y a à peu près cette somme pour, je ne peux pas vous dire le nom, mais enfin, vous voyez à peu près qui. Est-ce que ça vous semble correct? Et Bercy mettait le tampon en disant, ok, c'est bon, vous pouvez présenter ça aux services fiscaux. Ce sera déduit de vos bénéfices et vous ne serez pas imposé dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle de la tolérance institutionnalisée. Ça date quand même de 1993. Ça n'est pas si vieux que cela. Cette tolérance, et c'était vrai, pas seulement en France, c'était vrai dans beaucoup d'autres pays. Et c'est cette tolérance-là à laquelle il faut s'attaquer. C'est évidemment cette tolérance-là qui n'est plus tolérée au niveau international.
C'est ouf.
Et de grandes législations sont intervenues aux États-Unis, en Grande-Bretagne.
Stupideco avait fait une vidéo sur le fait qu'il y a des institutions qui budgétaient.
Pour lutter contre cette grande corruption.
Qui avait un budget corruption,
deux
quoi.
Deux outils, principalement.
Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix.
Qui est celui de la prévention de la corruption. Une banalité que de dire il vaut mieux guérir, prévenir que de guérir, il vaut mieux essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de corruption plutôt que de lutter contre la corruption. Il faut les deux, évidemment. Mais il faut d'abord des outils de prévention de la corruption. Et donc, vous le savez, peut-être beaucoup d'entre vous, soit parce qu'ils travaillent dans les entreprises, soit parce qu'ils souhaitent y travailler, beaucoup de jeunes me remercient en disant « grâce à vous, je trouve plein de boulot ». Il faut mettre en place dans les entreprises des plans de corruption, anti-corruption, qui soient efficaces. Et il y a maintenant une autorité, l'AFA, qui a la capacité de contrôler, elle commence à le faire, qui a même éventuellement la capacité de sanctionner, non pas la corruption, mais l'absence de prévention contre la corruption. Et le deuxième outil, c'est que nous avons introduit...
Intéressant.
Une procédure, alors elle, pour lutter contre la corruption, lorsqu'elle
la face est l'Agence française anticorruption.
C'est une procédure qu'on appelle la convention judiciaire d'intérêt public. Je saute toujours au plafond quand on me dit que ça s'appelle la French DPA. Enfin, disons que c'est de même nature que les procédures qui existent aux États-Unis ou qui existent aujourd'hui en Grande-Bretagne, depuis peu de temps d'ailleurs en Grande-Bretagne, depuis quelques années en Grande-Bretagne, qui font que des entreprises peuvent être incitées à aller voir le procureur ou l'organisme chargé de cela pour dire, j'ai repéré qu'il y avait un problème, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème? Je reconnais la difficulté, il va falloir trouver une solution. Reste deux questions qui se posent. Est-ce qu'on monte suffisamment en puissance en France et quel est le jugement que l'on peut porter sur ces outils? J'y répondrai quand vous poserez une question. Et la deuxième question, parce que je crois qu'elle doit nous occuper, c'est la crédibilité de la coopération internationale. Vous ne pouvez pas lutter contre la grande délinquance internationale qu'est la corruption transnationale sans une coopération internationale efficace entre autorités administratives judiciaires chargées dans chacun des pays de lutter contre cela. C'est très important, par exemple, que le PNF en France ou l'AFA, l'Agence française, travaille dans de bonnes conditions.
PNF, c'est le Parquet national financier.
Office, ou même avec les Américains. Et puis, il faut aussi, au niveau international, avancer au niveau de l'OCDE, parce que tant qu'il y aura des entreprises d'autres pays qui sont capables de conquérir des marchés en Afrique ou ailleurs sans absolument respecter nos règles, il continuera à y avoir de la corruption.
Intéressant. J'aime bien on est tous contre, mais il y en a. C'est pas faux.
Merci beaucoup.
Son point de vue sur la tolérance à la corruption, qui est cadre, un vrai problème aussi, il n'a pas tort.
Entendu. Maintenant, Madame Ossowski, parce que vous êtes dans le quotidien et vous avez aussi travaillé dans le FBI aux États-Unis, vous êtes américaine aussi, ça veut dire que vous connaissez les deux côtés d'Atlantique. Alors, dans le quotidien du travail, est-ce que les moyens sont suffisants? Et la deuxième question, est-ce que les entreprises, parce que vous travaillez dans les cas très, très complexes, je veux nommer Airbus, Rolls-Royce, HSBC, je crois aussi, seulement pour nommer quelques-uns, et si vous voulez raconter un peu en détail, tout le monde est intéressé, je crois, mais en général, est-ce que les entreprises changent?
Well, first of all, I'm a British American, as you might have seen from my biography. I've been in England for 20 years.
Je suis américano-britannique.
I speak American, and I still sound American, but I'm also British.
Je suis plus britannique qu'américaine, d'une certaine manière.
And that really helps me. I've also spent the past decade on assignments in France. What that means is when you use a word like DPA, as you say, you have them in other parts of the world. We think we all understand what that means. Mr. Sapin was an architect of one. I'm practicing in a jurisdiction that has a different one from 2014. We need to understand that across the world, what even sounds the same may be quite
different. Tu peux mettre pause, s'il te plaît, une seconde. Donc là, elle parle de DPA. DPA, c'est Deferred Prosecution Agreement. En gros, c'est le fait de... c'est le marchandage avec des gens qui viennent dénoncer des cas de corruption. En gros, c'est des gens qui viennent balancer, qui en échange demandent une immunité. Et elle dit que il existe ce genre de process un peu partout dans le monde, mais qu'ils ne prennent pas la même forme partout dans le monde. J'imagine qu'elle va élaborer, on va voir.
Who really want to get at this problem from the root is we need to understand what those words mean in all of the countries with whom we work. So I do work with other countries. We're always better as law enforcement putting our hands together and working across
la corruption la coopération internationale est hyper importante.
It means that that is the most effective way to get together. In terms of do we have enough? You know, it's a truism to say that we could always use more. I'm a prosecutor. I understand what my job is. I'd love to have even more tools, but I've had the benefit of practicing in two jurisdictions that are in a lot of ways the envy of the world.
J'ai été procureur.
And I think we've got what we need to make a good dent and to make the criminals suffer.
On a de bons outils pour tabasser
Monsieur Sapin, je
pour entrer dans les criminels qui
est-ce que votre loi fait ses preuves en France et
qui participe à la corruption.
On a souvent aussi dit que surtout les Américains, ils utilisent la lutte contre la corruption comme une arme dans la guerre économique. Est-ce que c'est aussi votre expérience comme ministre?
Alors le plus vite possible, je savais que la question allait être posée, donc sur le premier aspect, les preuves, il faut demander aux acteurs pour savoir si ça se passe. J'ai vraiment le sentiment, je vous le dis, qu'on est passé de ce point de vue-là, il faut que je me méfie de l'ordre des mots, dans un monde nouveau. Dans un monde nouveau, c'est-à-dire que les entreprises ont bien intégré qu'aujourd'hui, c'était leur intérêt profond économiquement que d'avoir des dispositifs de lutte contre la corruption. C'est en France, lorsque nous avions, avant le dispositif Sapin, nous étions extrêmement mal classés. Commence à remonter progressivement. Et c'était devenu un contre-argument commercial pour les entreprises françaises. Et il y a des entreprises françaises qui ont raté des marchés mondiaux, en particulier lorsqu'ils étaient, ces marchés bénéficiaient d'une aide de la Banque mondiale ou d'une aide bilatérale, parce que la législation française n'était pas suffisamment au bon niveau. Donc, vraiment, il y a le virage s'est fait dans les entreprises. Et quand je regarde le travail de l'AFA, et quand je regarde le nombre de conventions judiciaires d'intérêt public qui ont déjà, en l'espace de quelques mois, puisque ceci est applicable depuis quelques mois, été
mises c'est l'Agence française contre l'autorité française, pour l'anticorruption. Et les conventions dont il parle, c'est ce que je vous disais, ce marchandage amnesti contre témoignage à charge.
Je peux me permettre de dire toutes les choses les plus horribles. Je ne crois absolument pas que le système judiciaire américain soit utilisé contre des entreprises étrangères. Je veux dire autrement, les autorités judiciaires aujourd'hui américaines sont capables parfaitement de vous démontrer qu'elles punissent, en particulier dans le domaine de la corruption. Sur les questions bancaires, c'est un peu plus complexe, mais la corruption, de la même manière, des entreprises américaines, des entreprises anglaises, des entreprises françaises. Le problème qui s'est posé à nous, je vais le résumer par une courte, là aussi, petite histoire. Je vais, en élaborant la loi Sapin aux États-Unis, je vais voir le DOJ, je vais voir le spécialiste, le gars, le chef de la section anticorruption.
DOJ, c'est le ministère de la Justice.
Vous êtes méchant comme ça avec les entreprises américains. Françaises. Je ne suis pas méchant avec les entreprises françaises, mais vous ne faites pas le boulot. You don't do the job, so I do it. Et j'ai revu il y a quelques jours un colloque, la même personne qui est passée du côté avocat, vous me direz, mais bon, ça va très vite, et qui me dit, alors là, ça y est, maintenant, vous êtes au meilleur standard. Vous faites le boulot, on va quand même regarder dans les détails si vous allez jusqu'au bout. Donc la crédibilité de notre dispositif, ça va être dans la durée de monter en puissance. Donc je ne crois pas que la justice américaine est utilisée dans ce domaine-là. Par contre, je vois bien, non pas des abus de droit, mais des abus de pouvoir de la part des autorités américaines. Et quand une autorité américaine dit, si vous allez en Iran aujourd'hui, je vous punis, je vous interdis de travailler aux États-Unis, ce n'est pas les juridictions. C'est un pouvoir, c'est même un homme qui fait ça par tweet. Ça, c'est de l'abus de pouvoir.
Il parle de Trump.
Mais les juridictions américaines, de mon point de vue, ne sont pas un outil au service de je ne sais trop quel impérialisme américain.
Intéressant. C'est un peu à leur sujet, mais c'est intéressant.
Merci beaucoup. Et c'est ma dernière question à Madame Ocongo, et après on passe au public. Madame Ocongo, est-ce du progrès on voit en France? Est-ce qu'on voit du progrès?
Alstom et GE, c'est quoi? Oui, mais lui, il dit que c'est pas l'administration judiciaire américaine qui fait ça. Il dit que c'est le pouvoir américain, et c'est pas la même chose. Il faut bien faire la différence entre le gouvernement et l'État. C'est jamais la même chose. Enfin, tu vois.
Some progress internationally. I even work as part of a team of private sector people with companies like Unilever and Virgin called the B team, all very determined to fight corruption.
But donc j'ai bossé dans des équipes. Il y a encore beaucoup d'hypocrisie.
You know, even though we have all of these things, you have very little money that has been taken out of Africa and other developing countries being returned. It's still very, very slow. So I want
parmi tout l'argent qui a été extrait via la corruption d'Afrique, on en a peu ramené. Certes, il y a moins de corruption, mais on n'a pas ramené tout ce qui est sorti, quoi.
Test, and then I'll give up the floor. I want to ask everybody here, do you know who the president of Switzerland is?
Je vais demander à tout le monde dans la salle, est-ce que vous savez qui est le président de la Suisse?
No, nobody knows.
Vous savez, vous, dans le chat,
money, both those who are licit and those who are illicit, to Switzerland, people send their children to school. Everybody believes in Switzerland. Why? Because it has strong institutions.
Et tout le monde croit en la Suisse. Pourquoi? Parce que la Suisse a de très fortes institutions.
It is because institutions for fighting corruption are weak. That is why you see more of the petty. So, let us strengthen.
Il faut de meilleures institutions.
Really the message. By the way, the name of the president is Uli Maurer. Don't look it up on Google. But you trust Switzerland because it has strong institutions. We need to build very strong.
Vous faites confiance à la Suisse parce qu'ils ont des institutions fortes et pas parce que vous faites confiance aux gens.
You need to protect those fighting.
C'est ça son message. Et il faut protéger ceux qui se battent contre la corruption.
It's being used sometimes as a political weapon. And that is part of the reason I wrote this book. When you fight corruption, please go and buy it.
Achetez mon bouquin.
It's called Fighting Corruption.
Elle dit la corruption, ça peut être instrumentalisé politiquement. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin.
Merci beaucoup, Madame Ocongo.
Et je pense que ce qu'elle doit dire dans le bouquin, c'est par exemple ce qui doit se passer en Chine. À savoir, vous accusez un opposant politique de corruption et ça vous permet de le foutre en taule.
Désolé, il y a des sessions juste après, donc on a.
Je pense que c'est ce qu'elle doit dire dans le bouquin. Je l'ai pas lu, mais j'imagine.
Désolé.
Le monsieur au milieu là.
C'est pas notre faute, on a commencé tard. Et...
Bonjour à tous. Désolé pour le public du coup qui voulait poser des questions. Je vais être aussi efficace que vous, Madame Ocongo, donc je vais pas parler en anglais, mais en français. Donc ma question, c'est finalement, je pense qu'on fait tous le constat que. Pour éradiquer la corruption, s'il y a bien quelqu'un qui doit l'éradiquer, c'est quand même pas les élites, puisque ce sont eux, les élites politiques, qui sont à l'origine même de cette corruption. Donc c'est pour ça que vous mettez tous sur la table une solution, qui est de créer des entités indépendantes. C'est l'objet de votre loi Sapin 2.
Narwan Branco dans le public.
C'est l'objet de la Serious Fraud Office. De la Serious Fraud Office. Et donc ma question, c'est finalement, ces autorités indépendantes, sont-elles vraiment indépendantes? Sont-elles efficaces? Et ne font-elles pas finalement que déplacer la corruption?
So in one second, because we have to leave the room, sorry.
So in the two jurisdictions I've practiced, they're independent, but my colleagues around the world are constantly fighting against being targeted physically, their families threatened. There is deep, deep danger available if you take on a job like mine.
Moi, dans les deux juridictions où j'ai bossé, elles étaient indépendantes, mais j'ai plein de collègues qui se battent au quotidien pour garder leur indépendance. Il y a des risques pour votre santé, votre famille, etc., qui sont évidents. Et elle dit le tableau est figé raisin.
Aujourd'hui, sont indépendants. Ils l'ont d'ailleurs prouvé réellement. Mais l'indépendance, c'est un combat. Qui doit toujours nous occuper les uns et les autres. Et il paraît qu'il va y avoir quelques changements là, à la tête de, en tous les cas, une de ces organisations. Je souhaite que cette indépendance soit largement maintenue.
Le PNF, je pense qu'il parle du PNF, Michel Sapin. Le parquet national financier.
Merci beaucoup. Bonne continuation.
Et c'est la fin déjà. Ah, une seule question, c'est dommage. Je pense qu'il parle du parquet national financier dont le procureur de la République va changer, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vous me corrigez dans le chat si jamais vous savez. Il me semble qu'il est supposé changer. Attendez, je regarde si je trouve. Je ne sais pas. Bon, voilà. Bon, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez apprécié cette table ronde. Bon, malheureusement, c'était un peu court sur les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Et on peut discuter ensemble, vous et moi, jusqu'à, je sais pas, midi 30, un truc comme ça. Le PNF, selon lui, ne serait pas vraiment indépendant. C'est pas ce qu'il a dit, j'ai pas les pseudos. Ce qu'il a dit, c'est plus que, selon lui, le PNF et l'AFA, l'Agence française anticorruption, sont effectivement indépendants et ils l'ont prouvé par le passé. Mais il a dit l'indépendance qui permet une meilleure lutte contre la corruption. C'est un combat permanent, c'est pas un truc que vous gagnez une fois et après c'est bon quoi. Et il dit apparemment au PNF, le patron, alors je pense qu'il parlait du PNF, du parquet national financier, je vous invite à vérifier. Il parlait pas du PNF, il parlait de qui alors, Sacha Derek, il parlait de l'Agence française anticorruption. Et il dit visiblement il y a apparemment la tête de l'un des deux, l'une de ces deux institutions qui va changer. Et il exprime le souhait que les deux institutions restent indépendantes, et ce qui est un énorme clin d'œil, j'imagine, au pouvoir actuel en France, Emmanuel Macron, en disant ne faites pas ce que vous avez pu faire, par exemple, avec le procureur de Paris, en nommant quelqu'un que vous aimez bien, quoi. Procureur de Paris qui est Rémi Heitz. Un parquet n'est jamais en soi indépendant, ce sont les juges du siège qu'ils sont. C'est vrai qu'il y a aussi cette question-là en France qui est de l'indépendance des juges du parquet, qui est une question qui revient régulièrement sur la table. Il y a certains observateurs qui estiment, à tort ou à raison, ça chacun se fera son avis, mais certains observateurs qui estiment que l'indépendance de la justice en France, que la justice en France n'est pas indépendante comme elle devrait l'être si on avait une vraie séparation des pouvoirs. Bonjour, en soi, le lobbying n'est-il pas une forme de corruption? Ça dépend. Si lobbying, c'est offrir des dîners, offrir des cadeaux, etc., là, il y a, enfin, on peut dire que, ouais, ça y ressemble. Si le lobbying, c'est présenter des argumentaires et essayer de convaincre quelqu'un via des arguments et pas via des avantages, est-ce que c'est de la corruption? Non, c'est du travail d'influence. Donc, voilà, faut réaliser que des organisations comme Oxfam, etc., d'une certaine manière, ce sont des lobbies. Alors, des lobbies dans le sens où ils lobbient, ils font du travail de lobbying, ils font du travail de conviction. Ils le font pas pour les mêmes raisons que le lobby de je sais pas, que la FNSEA pour le ce qui est de le, qui est le lobby de l'agriculture, en gros, ou d'autres. Hein, je dis ça comme ça, celui-là, mais voilà, il n'y a pas les mêmes intérêts en jeu, pas les mêmes sujets qui sont défendus, etc. Mais voilà, donc faut faire gaffe quand on parle d'interdire les lobbies, par exemple, parce que vous risquez d'interdire en fait simplement le fait de prendre des retours d'expérience auprès de professionnels de certains secteurs, auprès d'associations qui défendent certains sujets, etc., etc. Voilà. Quel impact la crypto-monnaie pourrait avoir sur la corruption? J'ai pas suivi la partie crypto du live. Alors ils ont pas parlé des crypto-monnaies sur la corruption, mais c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus, Kunae Kun, on sait que certaines crypto-monnaies ont servi surtout à acheter des produits illégaux sur le dark web, le darknet, tout ça, et que c'est plus difficile d'avoir de la traçabilité via les crypto-monnaies. Mais ils en ont pas trop parlé. Mauvaise foi peut-être sur les lobbies. Pourquoi mauvaise foi, Gorbinator? Ou alors t'as pas écouté ce que j'ai dit, mais ça après. La corruption est difficile à délimiter par le fait que tout le monde ne met pas les limites au même endroit. Oui, c'est clair que ce que je dis, j'ai tweeté un truc il y a un jour ou deux. Je cherche du boulot en ce moment et j'ai vu une offre d'emploi où vraiment j'étais pas fan, pas particulièrement fan. Enfin, c'est comment dire. c'est un boulot que je peux faire, mais qui est pas, qui me passionne pas, qui me passionnerait pas plus que ça, mais extrêmement bien payé. Et je me suis dit, ah putain, à ce prix-là, quand même, j'ai réfléchi 2 secondes. Bon, au final, je vais pas candidater, mais voilà. Et d'une certaine manière, on pourrait aussi, à la limite, estimer que les mecs qui sont payés des millions dans les banques dans les banques, les fonds de pension, etc., pour jouer en bourse au risque et péril des retraites de certains, d'une certaine manière, est-ce que c'est pas une forme de corruption très déguisée, quoi? C'est, on vous paye très cher pour que vous fassiez des trucs moralement douteux, pour que vous acceptiez de bosser dans des domaines moralement douteux. Je dis ça, mais il y a aussi, je sais pas, les gens qui affrètent des pétroliers qui sont miteux, etc. Est-ce que c'est des discussions qui peuvent être pertinentes? Alors attendez, je remonte un peu. Je regarde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. Il sent un peu le sapin. Hein. Qui ça, Michel Sapin? Oh là là, je suis sûr que t'es le premier à faire la blague. Ils ont pas parlé des collusions du PNF dans l'affaire de la BNP. Alors, je suis pas au courant. Je vous avoue que le PNF, je maîtrise pas toute l'actualité du PNF, mais ils en ont pas parlé effectivement. Après, Michel Sapin avait l'air d'estimer que le PNF était suffisamment indépendant. Voilà. Est-ce que si Macron fait des cadeaux ou autres aux gens qui l'ont permis d'être élu, c'est considéré comme de la corruption ou non si c'est fait dans un cadre légal? Alors, c'est pas de la corruption, je veux dire. Est-ce que faire des politiques qui avantagent les gens qui ont voté pour toi, c'est de la corruption? J'imagine que ça dépend très largement de ce que tu estimes être de la corruption. Cela dit, ça amène vers un truc intéressant que j'ai déjà dit plusieurs fois dans les émissions questions au gouvernement qu'on fait les mardis et mercredis sur Acropolis, abonnez-vous, qui est que le vote, c'est... Alors, pas de la corruption, mais le vote, c'est un système de carottes et de bâtons pour les gouvernants. C'est-à-dire que l'objet du vote, c'est pas de dire vous allez décider qui va gouverner. C'est une partie de l'objet du vote, mais c'est pas tant ça que de dire la raison pour laquelle il faut que tout le monde ait le droit de vote, c'est pour que quand on gouverne, on soit pas incité à oublier une partie de la population, à savoir celle qui n'aurait pas le droit de vote. Donc tous les gens qui disent ah oui, on devrait pas donner le droit de vote aux gens qui ont pas le bac, disent ça sans réaliser que si on fait ça, eh bien du coup, il y aura pas de, les politiques n'auront aucun intérêt à mettre en place des politiques publiques qui vont se soucier des gens qui n'ont pas le bac, par exemple. Ou quand on dit les jeunes devraient avoir certaines catégories de la population. Par exemple, le Front National à une époque proposait que les pères de famille, enfin les chefs de famille, disait-il, plusieurs votes. Bon, chacun pensera de ce qu'il veut de l'idée. Certains vous diront que la démocratie, c'est une tête, une voix. Mais surtout, ça consiste à dire, bah, du coup, quand vous êtes un politique qui va se retrouver au pouvoir, vous avez tout intérêt à favoriser les parents de familles nombreuses plutôt que les parents de familles, plutôt que les familles restreintes, enfin, les petites familles. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de voix à aller prendre là-bas, si jamais on met en place ce genre de règles. Et donc c'est voilà, le vote, c'est un système d'incitation. Maintenant, est-ce que c'est de la corruption ? Voilà quoi. Ça dépend de ce que tu entends par corruption. Je veux dire, c'est un peu la même question sur le populisme. Est-ce que faire ce que le peuple demande, c'est du populisme ou est-ce que c'est de la politique classique ? C'est une grande question. Certains vous diront que il y a une phrase comme ça sur je crois que c'est quelqu'un qui a dit ça de Nicolas Sarkozy, qui disait Nicolas Sarkozy, c'est l'exemple typique du politique. Je crois que c'était sur Nicolas Sarkozy, je me trompe peut-être, mais et la phrase c'était, alors je sais pas qui a dit ça, un journaliste, un truc comme ça. Nicolas Sarkozy, c'est l'exemple typique du général qui dit Je sais plus comment c'était formulé, le mec qui l'a dit mieux que moi, mais en gros, Nicolas Sarkozy, c'est l'exemple typique du mec qui regarde où vont ses troupes et qui dit, enfin qui regarde ses troupes passer et qui dit où est-ce qu'elles vont, faut qu'on trouve où va l'armée là, pour que je puisse la commander. À savoir, bah il lead pas quoi, il suit. Bon après ça c'est une critique sur Nicolas Sarkozy, chacun est d'accord ou pas, mais il y a un vrai débat sur est-ce que être politique c'est faire ce que les gens demandent ou est-ce que le rôle des politiques c'est de faire ce que les gens demandent ou est-ce que c'est d'avancer sur des combats quitte à être en avance sur son temps. Par exemple, François Mitterrand, qui, quand on lui demande à la télé, avant l'élection présidentielle de 80, est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort, et qui dit, moi, je suis résolument contre la peine de mort et je l'abolirai si je suis élu président, alors pourtant que le soutien à la peine de mort était de, je sais plus, 60% à l'époque, à gauche, quand on parle de ça, on parle de l'avant-garde. Est-ce que le rôle de la gauche, c'est d'être à l'avant-garde ou pas, d'être en avance sur son temps, etc., etc. C'est de vrai. Enfin, voilà, je peux pas vous répondre. Je peux pas vous répondre. C'est des questions de d'avis de chacun, mais voilà. Le financement illégal de campagne, c'est plutôt la rupture d'égalité avec les autres partis, donc plutôt un problème démocratique. Ça dépend de ce que tu entends par financement illégal de campagne, parce qu'il y a le fait de dépasser les frais, et dans ce cas je suis d'accord avec toi, et il y a le fait que l'origine de tes fonds soit illégale, qui là peut s'apparenter à de la corruption dans certains cas. Si tes fonds c'est certains intérêts russes, je nomme personne en France, mais si tes fonds viennent de certains milieux d'intérêts russes, il peut se poser des questions, enfin je dis ça d'ailleurs, mais ça s'applique à d'autres pays, il peut se poser des questions sur est-ce que tu seras, la politique que tu mettras en place ensuite sera vraiment indépendante d'influences étrangères. Voilà. Je pense qu'on devrait retirer le droit de vote à 70-75 ans, les vieux votent pour la construction d'un monde où ils seront plus là et du coup votent que pour la gueule. Bah, tu vois, ça par exemple, je ne suis pas complètement d'accord personnellement. C'est un avis, je comprends. Mais je suis pas complètement d'accord, parce que ça veut dire que, imagine-toi quand tu auras 75 ans, ce que tu es en train de dire là, tu es en train de proposer d'une certaine manière, confirme toutes les maisons de retraite. Parce que bah les politiques auront aucun intérêt à s'assurer que tu vives beaucoup plus vieux que 70-75 ans, tous les gouvernants. Donc voilà, bon bah si aujourd'hui tu as 20 ans, tu trouves peut-être ça normal, mais je te jure que quand on aura 70-75, tu te diras, ah ouais, en fait, je suis pas. Peut-être que je regrette d'avoir proposé ce genre de truc. Voilà. Maintenant, je comprends ton propos, mais c'est vrai que les jeunes sont incorruptibles. J'ai pas dit ça. C'est pas ça mon propos. Est-ce qu'on parle de corruption si on reçoit un salaire pour faire marcher l'économie de la corruption? Est-ce qu'on parle de corruption si on déclare les cadeaux reçus? En tout cas, en France, il y a des obligations de déclarer les cadeaux qu'on reçoit, précisément pour. Et derrière, il y a par exemple le déontologue de l'Assemblée nationale, enfin la déontologue en l'occurrence aujourd'hui, la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, etc. Il y a plein d'institutions comme ça qui sont en charge de dire quand vous recevez un cadeau, c'est suite au diamant de Bokassa qu'avait reçu Giscard d'Estaing. Il s'était fait cartonner par le canard enchaîné, ça avait fait un scandale, etc. Et on a mis en place certaines procédures qui font que, par exemple, les présidents de la République ne reçoivent plus les cadeaux eux-mêmes, les cadeaux sont faits à la présidence de la République et donc ça revient à l'État, qu'en plus ça doit être déclaré, etc., etc., pour être sûr que, bon, d'une part, ces autorités peuvent dire « Ah non, alors vous devez refuser le cadeau, ou alors vous devez démissionner, là il y a un conflit d'intérêts, etc., etc., etc. » je continue à lire vos trucs, c'est intéressant ces discussions. Ces élus de gauche qui mettent des politiques en faveur des pauvres juste pour qu'ils votent pour eux. T'es qui toi? Tiens, pour supprimer ton message, bim, pour ça. Ah non, je peux pas, j'ai pas les droits. C'est un collègue d'Acropolis, hein. Ne dites pas que. Ne pensez pas qu'on censure, qu'on peut plus rien dire. Merci pour la réponse sur les lobbies. Pour moi, influencer certains professionnels comme ça peut l'être dans l'industrie pharmaceutique et la médecine, pour prendre cet exemple que je connais, est à mon sens de la corruption. Oui, je comprends, mais après, vous voyez, imaginez que vous allez faire une loi sur, j'essaie de prendre un sujet pas trop polémique, que vous allez faire une loi sur les algorithmes de recommandation de publicité sur Internet. Ok? Les trucs qui font que quand vous avez regardé des baskets sur le site Nike.fr pendant 2 semaines, vous avez des pubs, dès que sur tous les autres sites internet, vous avez des pubs pour dire hey, regarde les super baskets, viens les acheter. Ça, c'est du tracking publicitaire, etc. Vous voulez faire une loi qui va porter sur ces sujets-là, peu importe ce que dit votre loi. Est-ce que vous êtes député, vous êtes législateur, vous avez probablement fait des études en droit plus qu'autre chose, mais vous avez. Il est assez peu probable que vous ayez bossé dans ce secteur-là en particulier. Si vous mettez en place des règles qui disent qu'on n'a plus le droit d'auditionner des gens qui bossent pour des entreprises, parce que vous estimez que c'est de la corruption, bah d'un coup vous ne pouvez plus auditionner les gens qui bossent chez Criteo, chez tous les trucs de retargeting, les trucs comme ça, ces entreprises-là, qui vont vous expliquer comment fonctionnent les algorithmes, ce qu'il faut faire pour lutter contre les effets néfastes, etc., etc. Vous vous privez quand même d'une expertise assez grande. La différence entre l'avis expert de quelqu'un et le conflit d'intérêts dans l'avis que vous donne un expert, elle peut être très fine. Alors après, il y a des cadres où c'est assez évident. Si j'arrive avec une manette de cash et que je vous dis, tiens, mon avis allez, je vais prendre un sujet pas trop polémique, l'homéopathie. Tiens, mon avis sur l'homéopathie, c'est que c'est vachement bien, il faut que toi, gouvernant, tu fasses en sorte que ça continue à être déremboursé, et au passage, prends cette valise de 200 000 dollars. Assez évidemment, c'est de la corruption. Maintenant, si vous arrivez en disant, alors là je parle pas d'homéopathie, mais si vous arrivez en disant tel médicament, son effet n'est pas prouvé, etc., ou son effet est prouvé, etc., moi en tant qu'expert pharmacien, j'estime qu'il vaut mieux adopter telle ou telle position sur ce médicament. Ça peut être une position d'expert, ça peut aussi, si vous le faites sans argent, c'est devient plus difficile de dire que c'est de la corruption. Maintenant, si vous avez un conflit d'intérêt, est-ce que c'est de la corruption? Le conflit d'intérêt, c'est pas vraiment la même chose que la corruption. Si, je veux dire, c'est pas surprenant de gens qui sont pour l'homéopathie de dire que, enfin, de gens qui produisent de l'homéopathie de dire que l'homéopathie c'est bien, sinon ils produiraient pas de l'homéopathie. Maintenant, s'ils le font avec une valise de cash, là, c'est clairement de la corruption. Si simplement ils disent nous, on est favorable à l'homéopathie parce qu'on en produit, c'est un conflit d'intérêts. C'est pas la même chose que la corruption. Est-ce qu'il faut lutter contre les conflits d'intérêts? Je comprends aussi. C'est pour ça que, par exemple, chez les universitaires, quand un papier, une étude est produite, etc., en permanence, chez les universitaires, il y a une bonne pratique qui consiste à lister ces conflits d'intérêts. Pareil dans le journalisme, normalement. Les journalistes, quand ils parlent d'une entreprise qui est, par exemple, actionnaire de leur journal, même si c'est un actionnaire, qui est d'une manière ou d'une autre actionnaire de leur journal, en général, à la fin du papier, il y a écrit « déclaration d'intérêt, 2 points, telle entreprise est actionnaire à 26% du journal dans lequel je suis en train d'écrire, etc. etc. » Pourquoi on n'arrive pas à mettre au cachot les Sarkozy, Guéant, Balkany? Oula, c'est un autre sujet, ça. Est-ce que je pense que Sarkozy, Guéant, Balkany, c'est les mêmes? C'est encore un autre sujet, ça. C'est pas vraiment le sujet du jour, on n'est pas... je continue à lire un peu vos messages. Est-ce que le système de grade dans la fonction publique, ce ne serait pas de la corruption? Car si on veut une promotion, en général, il faut faire ce que l'État nous demande pour mériter la promotion. Moi, je trouve pas. Je trouve pas. Mais bon, je ne sais pas quoi vous dire. En quoi ce serait de la corruption? C'est tu montes en grade quand tu fais ton boulot, quoi. Après, quand tu es dans l'administration, tu es là pour servir l'État. Donc... À nouveau, l'État, c'est pas le gouvernement, hein. Évidemment, vous appliquez, mais et en plus, j'ai envie de vous dire, bon, si le gouvernement est démocratiquement élu, quelle légitimité vous auriez en étant dans l'administration à ramer dans l'autre sens? Bon, après, il y a évidemment l'éthique personnelle de chacun, vous pouvez démissionner si vous n'êtes pas d'accord, etc. Et quand vous commencez à voir l'État français, faut aussi savoir quelles sont vos limites personnelles, mais bon. Je veux dire, si jamais demain vous apprenez que... je vais vous donner un exemple. Imaginez que demain vous appreniez que tous les RSA de France qui sont versés, on en verse 90% de ce qu'on devrait normalement verser parce que un mec au ministère des Affaires Sociales a réussi à glisser, un mec un administratif, je parle, pas un politique, a réussi à glisser au milieu un truc qui fait que voilà. parce que son opinion personnelle, c'est que vraiment, faut pas aider les pauvres, etc., etc. Qu'est-ce que vous en, très sérieusement, qu'est-ce que vous en penseriez, vous? Il y a, je pense, une partie d'entre vous qui se dirait, assez légitimement, à mon sens, qui se dirait, c'est scandaleux, d'où il se permet de faire ça? C'est dégueulasse. On a décidé que la solidarité en France, ça prenait cette forme-là. De quelle autorité ce mec se permet ça? Et je pense que vous auriez raison de penser ça.
Quelle indignité.
Bon, ça va, tu l'as déjà faite, ça suffit maintenant. Quelle non mais. Penser dans l'autre sens, enfin, donc, je veux dire, de réaliser ça. Du coup, j'espère que cet exemple répond un peu à ta question. Je sais plus, j'ai plus ton pseudo. Mais tu vois, c'est pas ton rôle quand t'es dans l'administration. T'es là pour appliquer. T'as été recruté pour ça. T'as signé pour ça. Tu le sais. C'est pas ton rôle de faire de la résistance. Alors bon, le jour où tes ordres c'est d'envoyer une partie de la population à Auschwitz, là, ça, chacun prend ses responsabilités. Mais les politiques sont démocratiquement élus pour fixer le cap et les administratifs sont là pour l'appliquer. Voilà. Peut-on faire disparaître la connerie humaine? Réponse non, c'est QFD, donc pourquoi se poser cette question? Alors, je vais te dire que tu es en train exactement de citer, je crois que c'était Michel Sapin qui a dit ça tout à l'heure. Le fait qu'un ministre de la Santé était un ancien lobbyiste, c'est de la corruption. Les gars, j'en sais rien, faites-vous votre avis sur le sujet. Est-ce que le fait qu'un ministre de la Santé ait été un médecin, c'est de la corruption? Ou est-ce que c'est un expert dans son domaine? Faites-vous votre avis, je sais pas quoi vous dire. Voilà. Ne penses-tu pas que la corruption ne peut pas être réglée par les puissances corruptibles et que compte sur la vertu des individus n'est pas illusoire? La solution ne passe pas par des contre-pouvoirs réellement efficaces mis en place démocratiquement par les peuples eux-mêmes.
Arrêtez de lui demander ce qu'il pense. Hein,
déjà, arrêtez de demander ce que je pense, mais en plus, je crois que vous avez une vision extrêmement naïve de la corruption sur certains... Vous savez, on dit régulièrement que la fraude... Très souvent, on entend plein de gens, dont je suis, entre autres, dire oui, la fraude aux aides sociales, c'est je sais plus combien, mais genre 100 millions ou 200 millions. La fraude fiscale, c'est je sais plus combien de milliards. Concentrons-nous sur la fraude fiscale. Oui, alors oui, pertinent comme argument, mais il faut réaliser que la fraude fiscale, c'est beaucoup de gens qui sont payés au black et qui, notamment de particuliers qui participent à ce système, que c'est beaucoup de très petites entreprises, des entreprises, des boulangeries, des entreprises où vous avez une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Je veux dire, c'est pas forcément que. Alors, c'est aussi, bien sûr, les grosses entreprises, hein, très bien évidemment. Mais c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de toutes petites entreprises qui minimisent les impôts qu'ils doivent payer, qui prennent les paiements en cash et les déclarent pas, etc., etc. Je vous disais l'autre jour que j'étais allé regarder, aller mesurer les taux de gens inquiétés par la justice pour comparer, enfin, dans la population générale et comparer ça aux élus inquiétés par la justice, et que c'était 8 fois plus grand dans la population générale que chez les élus. Si vous pensez que c'est ce que nous disaient d'ailleurs les intervenants sur la table ronde, la corruption a toujours existé, existera toujours, la corruption et les malversations, et je veux dire au sens très très large du mot corruption, etc. Faut pas croire que le peuple est magique et n'est pas, enfin, et est à l'abri de tout ça. C'est d'ailleurs ce que disait l'une des intervenantes. Alors j'ai plus son nom, je suis désolé. Celle qui était ministre au Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala. Ce qu'elle disait, ce qu'il faut, c'est des institutions fortes, des règles fortes pour empêcher la corruption de pouvoir arriver. Parce que si on espère que ce soit les gens, c'est ne pas comprendre que quand vous êtes plongé dans un système, vous réagissez aux bâtons et aux incitations, aux bâtons et aux carottes qui existent dans ce système-là. Et qu'un système qui permet la corruption, c'est pas étonnant de voir de la corruption, quelle que soit la moralité des gens qui soient dedans. Alors que dans un système où la corruption n'est pas permise, ça devient plus compliqué. Si vous pensez que le peuple, quoi que ça veuille dire, parce que ça veut en plus pas dire grand-chose, mais si vous pensez que le peuple, si d'un coup on met au pouvoir le peuple, il y aura plus de corruption, c'est que vous n'avez pas compris. Je veux dire, il y en a beaucoup d'entre vous dans le chat qui sont très critiques du pouvoir en place actuellement. Pour le rappel, j'en fais partie aussi. Hein. Mais il y en a beaucoup dans le chat parmi vous qui sont critiques du pouvoir en place actuellement. Est-ce que vous avez l'impression... Il y a un truc qui est indéniable, qui est que entre la précédente législature, les précédentes législatures et l'actuelle, il y a eu un renouvellement comme il y en a rarement eu dans la vie politique française. Je veux dire, même à la Révolution, entre ceux qui étaient élus de députés pour les états généraux et ceux qui étaient dans la constituante, c'était les mêmes de l'un à l'autre, donc il n'y a pas eu autant de renouvellement à la Révolution. Donc il y a rarement eu autant de renouvellement qu'aux élections législatives de 2017. Est-ce que vous avez l'impression que ça a radicalement changé et que les nouveaux élus sont moins pourris, au sens large, ont moins d'affaires que les autres ? J'en sais rien. Faudra attendre la fin de leur mandat, voir que toutes leurs affaires sortent, etc., pour voir si, et comparer ça sérieusement, c'est-à-dire avec des stats, et regarder s'il y avait plus d'affaires pendant le mandat actuel ou pendant le mandat précédent. Mais est-ce que votre impression, votre feeling, c'est qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui ? Moi, mon impression, c'est une impression, mais mon impression, c'est que bon, aujourd'hui, entre celle qui a voulu vendre ses visites à l'Assemblée nationale, entre, je parle même pas de l'affaire Benalla, en long, en large et en travers, entre le fait que Agnès Buzyn a des liens avec l'industrie, qu'Emmanuel Wargon a des liens avec l'industrie, que, je veux dire, il y en a plein, j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup plus blanc. J'ai pas l'impression qu'il soit ni pire ni meilleur que les précédents, quoi. Et pourtant, on a renouvelé tout le monde. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut ? Faut qu'on renouvelle 30 fois tout le monde par une nouvelle vague de chevaliers blancs pour qu'on réalise qu'en fait, le problème, c'est pas les gens, mais les institutions, les règles du jeu qui permettent ça. Voilà. Et je crois que c'est un peu le message que portait Ngozi Okonjo-Iweala en disant il faut des institutions fortes, il faut pas espérer le meilleur des gens parce que de tout temps, depuis la Grèce antique, l'Empire romain, etc., jusqu'à aujourd'hui, il y a eu de la corruption. Pourquoi est-ce que demain, par magie, on arriverait à trouver des chevaliers bleus, une vague entière de chevaliers blancs qui seront complètement à l'abri de tous les conflits d'intérêts, la corruption, etc., etc. Voilà. C'est en tout cas un message que on essaie de vous faire comprendre. Est-ce que lobbyiste implique de la corruption ou peut y avoir des bons lobbies ? À nouveau, Oxfam, d'une certaine manière, c'est un lobby. Si t'aimes pas Oxfam, évidemment, je vais pas te convaincre, mais il y a des gens qui estiment que je dis Oxfam et je sais pas, des trucs. Enfin, toutes les assos de défense des droits sociaux, de l'environnement, etc., d'une certaine manière, c'est des lobbies. Ils font un travail de conviction auprès des gouvernants. Alors, ils les font pas pour les mêmes raisons que les lobbies. Et je fais partie de ceux qui disent qu'il ne faut vraiment pas confondre les deux. On ne peut pas faire un amalgame entre Oxfam et la FNSEA, parce que la FNSEA défend des intérêts financiers, là où Oxfam, si on met en place toutes les politiques d'Oxfam, par exemple, je dis Oxfam parce qu'on avait eu Cécile Duflo sur le plateau il y a 2 semaines, qui est la patronne d'Oxfam aujourd'hui, la directrice générale d'Oxfam aujourd'hui. Si Oxfam met en place ses politiques, Cécile Duflo, elle sera ni plus riche ni moins riche, elle aura ni plus de pouvoir ni moins de pouvoir qu'avant. Alors que si on met en place tout ce que propose la FNSEA, les gens qui sont membres de la FNSEA seront plus riches qu'avant. Donc c'est une différence qui est essentielle à faire entre certains groupements d'intérêt et d'autres groupements d'intérêt. Maintenant, ça reste un lobby. Lobby, la définition d'un lobby, c'est de faire un travail de conviction auprès d'acteurs, ça peut être d'ailleurs auprès du grand public comme auprès d'acteurs institutionnels, de ceux qui sont aux manettes, quoi. Donc voilà, Greenpeace, c'est un lobby d'une certaine manière. Donc est-ce qu'il existe de bons lobbies ? Bon, si t'aimes pas Greenpeace, tu vas me dire que c'est pas un bon lobby, mais je veux dire, si t'es d'accord avec ce qu'ils font, voilà. Les convictions peuvent être fondées. Je dis pas que les convictions de Greenpeace ou de d'Oxfam sont pas fondées. Hein. C'est pas mon propos, mais voilà. Bon, je regarde encore un peu vite fait vos messages et on va ensuite se diriger vers une fin de stream parce qu'il est quand même midi et des poussières, les amis. J'espère que cette discussion vous intéresse. Est-ce que je fais partie du gouvernement en place ? Non, Fanny Dufos, tu le sais bien. Tu es une habituée d'Acropolis, tu sais que je ne fais pas partie du gouvernement en place et que je suis même pas trop d'accord avec le gouvernement en place, mais Je compare un lobbyiste et un médecin sérieusement. J'ai fait ça ? Quand est-ce que j'ai fait ça ? Raphaël de la régie qui me lance ça. C'est bien, tu vas aider à étayer mon propos. T'es là pour appliquer, on revient pile dans la corruption. Est-ce que tu es censé signaler alors ? Oui, l'article 40 du code de procédure pénale, je crois. L'article 40 qui dit que tout agent, tout de l'État, tout membre d'une autorité constituée, c'est-à-dire un truc prévu par la Constitution, donc je sais pas, les députés, les sénateurs, les membres du CESE, les magistrats, les tout ça, tous les gens qui sont prévus, dont le rôle est écrit, les ministres, etc. Tous ces gens-là, s'ils ont connaissance d'un crime ou d'un délit, ils doivent le signaler à la justice. Donc, pour te répondre, si tu es fonctionnaire et que tu as connaissance de, je dis crime ou délit, je ne sais pas si c'est crime ou délit, mais bon, si tu as connaissance d'une infraction à la loi, on va dire, eh bien, tu dois le signaler à la justice qui derrière, elle décide si elle agit ou pas. Donc, pour te répondre, appliquer, ça veut dire pas forcément appliquer bêtement. Déjà, il y a des règles dans l'administration, etc. Et notamment celle-là qui dit que t'as pas le droit de. Si on te demande de faire un truc illégal, tu dois le dire. Voilà. Pourquoi ça serait gênant qu'un médecin te fait du lobby ou qu'un médecin est anti-IVG ? Les médecins sont des lobbyistes comme les autres. Bah, c'est juste que lobbyiste. D'une certaine manière, la définition d'un lobbyiste, c'est que c'est quelqu'un qui est plus payé à passer, enfin qui est payé à passer plus de temps à convaincre sur un sujet qu'à éventuellement, d'ailleurs il le fait pas forcément, mais qu'à éventuellement exercer sur le sujet. Mais moi j'ai bossé dans l'intelligence artificielle. Si jamais demain il y a une loi sur l'intelligence artificielle et qu'on vient me demander mon avis sur l'intelligence artificielle, et que je dirais voilà selon moi comment faut réguler et comment faut pas réguler. C'est un avis d'expert ou c'est un avis de quelqu'un qui a un conflit d'intérêt ? Eh ben, écoutez, je vous mets au défi de réussir à me trouver la bonne frontière entre les deux. La bonne réponse, c'est d'espérer qu'en face les gouvernants, de voter pour les bonnes personnes, pour qu'en face les gouvernants qui m'écoutent sachent faire la part, le pour et le contre, pour dire alors ça, c'est un point de vue intéressant, et ça, c'est il est en train de servir ses intérêts de mec qui bosse dans le secteur. Voilà, bon, la différence entre un médecin et un lobbyiste professionnel payé par Boiron ou par je sais pas quelle autre industrie pharmaceutique, c'est qu'un médecin, il travaille dans le secteur. Mais vous voyez par exemple Agnès Buzyn, elle était médecin. Aujourd'hui, elle est plus médecin, elle exerce plus depuis je sais pas combien de temps, mais depuis un certain temps. Est-ce que c'est quelqu'un qui est lobbyiste ou est-ce que c'est une médecin qui du coup était experte ? Puis bon, après on pourrait aussi parler de est-ce qu'il faut un médecin pour au ministère de la Santé ? Il y a des gens qui estiment que non, il y a des gens qui estiment qu'il faut des bons administrateurs publics dans les ministères et qu'un médecin au ministère de la Santé c'est pas forcément un bon politique. D'ailleurs, on a vu pas mal de médecins se planter en étant au ministère de la Santé ou d'ailleurs en Italie ils ont mis pendant un moment des profs au gouvernement et donc un prof d'économie au ministère de l'économie, un prof de finance au ministère des finances, un prof de je sais pas quoi, un prof un ingénieur en agriculture au ministère de l'agriculture, ça n'a pas forcément super bien marché. Voilà,
D'ailleurs, c'est en général les spécialistes. Être spécialiste, ça veut pas dire être un bon politique, quoi.
C'est ça. C'est juste que être politique,
c'est très dur de trouver justement des gens qui sont très spécialistes et à la fois très bons politiques.
C'est comme tout le temps en politique. J'ai commencé le stream en disant ça et je vais le terminer en disant ça. C'est trouver la bonne balance entre deux trucs, quoi. C'est toujours le seul lobby pour un élu, c'est la patrie. Bah, il y a des gens qui te diraient que il y a des gens qui te disent, moi, je suis internationaliste, et qui te disent que leur lobby, c'est l'humain et pas la patrie. Il y a des gens qui te disent, je vois pas pourquoi quelqu'un qui est né à 20 km de la frontière française devrait être traité différemment de quelqu'un qui est né 20 km dans le territoire français, à 20 km de la frontière dans le territoire français. Et il y en a d'autres qui te disent, je veux dire, bon, vous le savez, hein, moi je vote plutôt à gauche, j'ai la conviction, quand bien même je vote à gauche, j'ai la conviction qu'une bonne partie des gens de droite ne sont pas des gens qui veulent détruire l'État, pas du tout, c'est juste qu'ils ont une conception différente que moi de ce que c'est que l'intérêt général. J'estime moi que l'intérêt général c'est inclure le plus de gens possible dedans parce que je pense que c'est une question de capital humain et que si tout le monde a les moyens de bien vivre sa vie, alors tout le monde y gagne, moi inclus. Là où j'ai l'impression, c'est mon impression, que les élus de droite estiment que leur électorat, les gens pour qui ils doivent agir, c'est une partie de la population et typiquement surtout ceux qui votent pour eux, à savoir évidemment ceux qui viennent de classes sociales plus favorisées. C'est des conceptions différentes de ce que c'est que ton électorat et de qui tu dois servir. Quand j'ai été élu à l'université, j'étais représentant à l'université, on avait des débats dans nos associations entre certains qui pensaient qu'on devait servir uniquement les intérêts des étudiants de notre université et d'autres qui pensaient qu'on devait servir les étudiants des intérêts au sens large et que ça incluait par exemple les gens qui voulaient postuler pour rentrer à l'université. Moi, je faisais plutôt partie de cette branche-là. Des gens qui disaient oui, il faut servir les étudiants de la Sorbonne, en l'occurrence, j'étais à la Sorbonne, mais aussi faut faire des journées portes ouvertes pour accueillir les lycéens et leur montrer les programmes, faut faire des journées de présentation des programmes à l'international pour dire aux gens allez étudier dans d'autres universités, découvrir d'autres pays, voyager, etc., faire des Erasmus, etc., parce que je pensais que la Sorbonne y gagnerait, que les étudiants de la Sorbonne y gagneraient, que tout le monde était gagnant dans ce genre de d'approche, bien plus que si j'étais très chauvin, très corporatiste, à dire « Ah non, nous on sert que les étudiants de la Sorbonne, ni plus, ni moins. » Mais bon, c'est des questions de point de vue, de conception de conception de la vie publique, de tout ça. Pourquoi est-ce que je parle d'économie avec des graphiques de trading ? C'est pas moi qui ai choisi le fond.
C'est pas moi non plus.
C'est Thibaut.
Ben on cherchait hier un fond
Thibaut de la régie
qui serait de la bonne couleur, etc., assez ouais. Sombre et tout. Et
Thibaut me disait mais quel fond t'aurais mis ? Et c'était une bonne question parce que j'avoue que je sais pas quel fond j'aurais mis pour dire économie.
On a passé 10 minutes à chercher et puis il a fini par abandonner quoi.
Je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout de l'économie, c'est de la finance.
Voilà, mais...
effectivement comment tu sauf à mettre 4 courbes d'un modèle derrière moi, c'est vrai que je ne sais pas
des
trop.
Billets de dollars.
Voilà. Alerte, un streamer d'Acropolis donne son avis. Agamemnon arrive. Mais c'est pas, si je vous dis ça, c'est pas pour vous raconter mon avis, c'est pour vous essayer de vous présenter, de vous dire un peu comment pense quelqu'un de gauche et de voilà. Mais je suis pas là pour vous convaincre. Je vous raconte.
Oui,
c'est
quand même François. Il donne son avis, mais en fait, c'est surtout qu'il donne son expérience. Et en fait, et parce que forcément, qu'il est obligé à un moment ou à un autre, quand il parle de son expérience, de donner son opinion sur un truc. Et son but, à lui, c'est pas de vous convaincre d'un truc, c'est juste de vous expliquer, voilà, moi j'ai pensé comme ça ou je pense comme ça, mais parce que l'idée c'est d'expliquer des choses à travers son opinion, c'est pas
de vous convaincre. Je pense que, oui, c'est ça, c'est pour vous éclairer, quoi.
Voilà, mais en aucun cas on vous demande de penser comme lui. Hein.
Je vous demande pas du tout de voter à gauche, ni même d'aller voter, vous faites ce que vous voulez. Tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de vous intéresser et de pas être convaincu par le...
De pas crier au scandale en permanence, quoi.
Ça, par exemple, encore que vous pouvez, je veux dire, moi, il y a plein de trucs qui me révoltent. Hein.
Oui, bien sûr, mais...
Bon. Mais c'est plus, ce que je veux dire, c'est ce que je déteste, c'est le discours « ils sont tous pourris, donc du coup, je refuse de m'y intéresser parce qu'il n'y a rien à faire. »
C'est ça.
Parce que pour moi, ce discours-là, au mieux, vous y croyez, et c'est vraiment dommage, parce que c'est ne pas comprendre les institutions et comment on améliore les choses, parce que je peux vous garantir que les choses elles étaient bien plus pourries il y a 20 ans, et encore 1000 fois plus pourries il y a 100 ans, et encore 100 000 fois plus pourries il y a 1000 ans. Donc au mieux vous y croyez, et c'est dommage. Au pire, c'est juste de la paresse intellectuelle qui consiste à dire « Ah non, chat perché, comme ils sont tous pourris, j'ai pas à faire l'effort de m'intéresser à la politique parce que la politique c'est chiant. » Et j'ai l'impression que souvent ce discours de « ils sont tous pourris », ça sert ce fond-là. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ma série préférée, The West Wing, que je vous conseille, qui est une série qui parle de politique, là-dedans ils disent un truc qui est tout à fait vrai, qui est que la politique elle est faite par les gens qui se ramènent. Donc les décisions elles sont prises par les gens qui sont présents. Et donc si vous voulez que les choses changent, investissez-vous. Et quand je dis investissez-vous, ça veut pas forcément dire encartez-vous ou quoi que ce soit, mais ça veut dire si vous trouvez que la pauvreté en France c'est dommageable, eh bien il y a des assos qui luttent contre la pauvreté, ou alors il y a des partis politiques qui ont ça comme ligne, ou alors juste aller voter, ou alors voilà. Faut pas laisser. Je sais plus qui avait cette phrase là que j'aime bien, qui est libre à vous de vous occuper de la politique ou pas, mais un jour la politique va s'occuper de vous, que vous le vouliez ou non. Je trouve que ça résume un peu mon point de vue. Est-ce que j'enfile ma veste comme le président ? Figure-toi que oui, Captain Follet. Parce que c'est très pratique. Mais je vois que tu es connaisseur de cette série. Parce qu'il y a peu de gens qui ont noté que c'était un gimmick de la série, l'enfilage de veste. de Jane Bartlett. Bon, les amis, j'espère que cette discussion vous a plu. Je vais être taquin, ton expérience, j'ai quel âge ? J'ai 28 ans, mon cher We Are Bob. Attendez, je lis encore un peu. En même temps, si je continue à lire, on va terminer le stream à...
C'est parce qu'il n'y a que 28 ans qu'il n'y a pas d'expérience.
À 22 heures. Bon, j'ai mon expérience de 28 ans, c'est tout.
Voilà, mais il y a... parce que j'ai senti une sorte de léger.
Bon, il peut, hein, je
veux dire. Taquet.
J'ai moins d'expérience que Michel Sapin qui était.
Ah, il donnait 20 ans, ouais, putain, il est sympa.
Ah, bah, c'est gentil. C'est que il faut avouer que nos techniciens sont très très forts sur la lumière parce qu'on ne voit pas mes rides et mon grand âge. Ouais, donc, félicitons jeune, ans, mais... les techniciens. Oh oui, mon enfant, ça reste très... Je vais peut-être pas baver à l'écran, mais... Oui, arrête quand tu veux, j'ai 200 questions. N'hésite pas à les poser. Et bon, toutes les questions, vous me demandez mon avis, je vous dis... Si...
Ça sert à rien, en fait.
Ouais, je peux vous le donner, mais je suis pas sûr qu'il soit plus pertinent. Je veux dire, je suis ni plus con, ni plus intelligent que qui que ce soit. Hein. C'est juste j'ai des avis, surtout. Enfin, surtout, sur plein de choses, en tout cas. Il y a des choses sur lesquelles j'ai pas d'avis, mais... Qu'est-ce qui vous semble le plus juste ? Utiliser l'argent public pour financer le chômage ou l'utiliser pour encourager l'emploi ? Alors là, t'es en train de demander à quelle branche des économistes on préfère. C'est un large débat et tu demandes qu'est-ce qui semble le plus juste ? C'est exactement la bonne question. C'est une question de justice et donc c'est une question d'opinion très largement parce que la science n'a pas du tout tranché ce débat. Elle a tranché plein de points, mais elle n'a pas tranché le débat entièrement. Et chacun donnera son point de vue. Sylvain, que vous connaissez de l'équipe d'Acropolis, te dirait sans doute la deuxième partie, l'utiliser pour encourager l'emploi. Là où je te dirais plutôt la première partie, c'est chacun, c'est vraiment une question de point de vue, quoi.
Non, Sylvain, il dirait je sais pas parce qu'en fait il est centriste, donc il dirait je ne sais pas.
Oui, enfin comme tous les centristes, c'est ça, il n'a pas d'avis.
Il dirait c'est les deux ou aucun des deux, quoi.
À toi, on sent que tu pars bientôt et que tu peux te permettre de lâcher des... je pense quoi du fait que dès que je vois des émissions politiques à la télé, ça parle d'immigration ?
Ce qui est faux d'ailleurs, mais... Enfin, ce qui est ni faux ni vrai,
ça parle plus d'immigration que...
Ça parle beaucoup, mais c'est pas le... Ça parle d'actualité, en fait. Et...
Ouais, mais ça parle plus d'immigration que ça ne... Enfin, je veux dire, quand on compare les préoccupations des Français et la place que ça occupe dans le débat à la télé, c'est clair qu'il y a une disproportion.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Maintenant, tu me demandes, tu penses quoi ?
Il en pense rien, il regarde que les ch'tis à Mykonos.
Non, j'en pense quelque chose, mais est-ce que c'est pertinent de vous dire ce que j'en pense ? Qu'est-ce que t'en penses toi, quoi ? Je veux dire, moi, j'en pense que, j'en pense qu'on devrait donner. Enfin, j'en pense déjà un truc qui est qu'il y a un serpent qui se mord la queue, comme celui des derniers Avengers. Il est vachement bien, voilà ce que j'en pense. Non, j'en pense qu'il y a un truc qui est que c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Par exemple, le Front National, on sait que le Front National a commencé le Front National à l'époque.
Allez.
A commencé à avoir ses scores largement augmentés à partir du moment où il a été fait en sorte qu'ils aient un temps de parole à la télé qui soit bien plus supérieur. Donc, c'est pas tellement les idées du Front National qui lui ont permis de progresser, c'est la place à la télé pour aller vite, le temps d'antenne. Ce qui amène à dire qu'il est fortement probable que, même si ça irait sans doute moins vite dans le sens, que si demain on arrêtait d'avoir le Front National sur la moitié des plateaux, alors leurs idées régresseraient. Je pense qu'il y a, c'est un avis, je pense qu'il y a une responsabilité des journalistes très forte dans ce qui occupe ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton en sciences sociales. La fenêtre d'Overton, c'est tout l'ensemble des idées qui sont acceptables politiquement et socialement à un moment donné. Par exemple, il y a 20 ans, le revenu universel, c'était pas dans la fenêtre d'Overton. Aujourd'hui, c'est peut-être dedans, peut-être pas. En tout cas, c'est une idée qui paraît bien plus acceptable qu'il y a 20 ans. Et donc, pourquoi je dis ça ? Oui. Et donc, il y a une question de est-ce que c'est pas un serpent qui se mord la queue ? Est-ce que... Enfin... La loi dit qu'il faut que les partis soient représentés à la télé à hauteur de leurs résultats électoraux, mais les résultats électoraux du FN sont très dépendants de leur représentation à la télé. Je dis du FN, mais ça marche aussi pour d'autres partis. Ça marche moins pour d'autres partis, c'est pour le FN que l'effet est le plus évident. Donc, comment on fait ? Est-ce que si on veut faire agresser le FN, il faut moins les montrer à la télé et au mépris des règles démocratiques, bah j'en sais rien. Voilà, moi je pense qu'il y a une responsabilité des journalistes, des gens qui animent des médias. Nous, chez Acropolis, on anime des médias. Certains d'entre nous, chez Acropolis, auraient aucun problème à interviewer des gens du Front National. Moi, je l'ai déjà dit et je le reste sur cette ligne-là, qui est que bah j'estime que c'est ma responsabilité publique que de ne pas interviewer des gens d'extrême droite, parce que j'estime que leurs idées sont contraires aux idées qui sont défendues par le projet d'Acropolis, qui est de permettre un débat démocratique. Je pense que le jour où le FN arrive au pouvoir, ils ne permettront plus le débat démocratique, et donc je ne vais pas être tolérant avec l'intolérance, pour parler de Karl Popper, pour ceux à qui ça parlera, un philosophe qui a écrit sur ce sujet. Donc voilà, maintenant, parce que la question de base était qu'est-ce que je pense de l'immigration à la télé. Est-ce qu'on parle beaucoup est-ce que l'immigration est une préoccupation de tout le monde parce qu'on en parle tout le temps à la télé, ou est-ce que on en parle tout le temps à la télé parce que l'immigration est une préoccupation de tout le monde? Je ne sais pas dans quel sens va la corrélation, et je ne suis pas sûr que ce soit évident à mettre en lumière. Voilà tout ce que je peux en dire. Tout à fait, Squall. C'était à ça que je
Squalala.
Faisais dire. Squalala. Quel est selon moi le point de vue des Français au sujet de l'UE? Oula, non, alors là, vraiment, ça, je suis désolé, mais.
Non, voilà.
Déjà, vous donnez mon point de vue, bof, mais donner le point de vue des Français. Je suis pas assez politique pour vous dire, mais monsieur, les Français, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils pensent, les Français. Voilà. Les tolérances sont très intolérantes, en fait. Non, ce à quoi je fais allusion, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la tolérance, qui a été formulé par Karl Popper, où il dit, si vous tolérez des gens qui veulent vous faire taire, et que leurs idées progressent, de telle sorte qu'à la fin, ils arrivent en position pour vous faire taire, eh bien, vous allez faire mourir la tolérance. Trop de tolérance risque de faire mourir la tolérance, et donc il ne faut pas tolérer l'intolérance. C'est un point de vue, c'est ce qu'il appelle le paradoxe de la tolérance. Tais-toi. Le fait que trop de tolérance peut amener à la fin de la tolérance, c'est ça le paradoxe de l'intolérance. Lui en conclut que du coup, il ne faut pas tolérer les intolérants. Moi, je suis d'accord avec ça. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. Chacun son point de vue. Et voilà. Ce paradoxe de l'intolérance n'est-il pas applicable à l'islam qui se propage en Occident? Là, on va rentrer dans mon opinion. Et je vais te dire que je pense que non. Je pense qu'il y a des cons. Je pense qu'il y a des musulmans cons, comme il y a des chrétiens cons, comme il y a des juifs cons, comme il y a des athées cons. Je pense qu'il y a des cons partout. Et que voilà. Mais vraiment, on sort de. Voilà. Là, on est vraiment dans mon point de vue. Du coup, je pense que, d'après moi, c'est qui les gentils et les méchants? Les gentils, c'est... moi, je suis...
Thanos.
Team... Non, moi... De quoi?
Thanos.
Putain, ta gueule, j'allais faire la blague. Moi, j'allais dire que j'étais team Iron Man.
Ah bon?
Et que Captain America, il a tort. Voilà, parce que une équipe de vigilants sans oversight, sans contrôle... démocratique, c'est n'importe quoi.
Non, c'est
voilà qui sont les gentils et les méchants.
D'ailleurs, c'est les Gardiens de la Galaxie qui ont tort maintenant.
Pourquoi?
Parce que il y a Thor qui.
Waouh!
Yes.
Putain, c'est chaud.
Pas
c'est.
La fin,
que penses-tu du futur? Il t'exit. Arrêtez de me demander ce que j'en pense. J'en pense rien.
Allez demander à Usul. Hop,
elle est demandée à Usul. Ça me paraît peu probable. Voilà ce que je peux vous dire, qui me paraît être une analyse à peu près neutre. Après, ce que j'en pense, est-ce que c'est bien, pas bien?
Lâchez François, s'il vous plaît. Lâchez-le.
Je peux vous dire ce que les économistes en pensent. Ils vous diraient que c'est probablement plus une connerie qu'autre chose. Est-ce que je pense qu'il faut penser à s'abonner ou le cacher en faire de l'humour médiocre sur un chat Twitch? Je pense que les deux sont une bonne chose. L'humour médiocre nous aide à animer cette émission. Et l'abonnement et le don permet de multiplier les émissions dans lesquelles vous aurez de bonnes blagues médiocres et des débats politiques qu'on espère intéressants et putain et illuminant et éclairant. Il voilà. Jules, il n'y a pas de complexe à donner son avis, par contre, il est plus cru que toi. Oui, mais après, le truc, c'est que c'est ce qu'on vous dit quand, les gens demandent l'opinion d'Acropolis. Est-ce qu'on est macroniste? Est-ce qu'on est gauchiste? Est-ce qu'on est droitard? On vous répond qu'on a dans l'équipe chacun nos points de vue. Bon, même si j'arrive peu à peu à convaincre Raphaël n'avait pas les mêmes idées que moi au début. Mais on a des points de vue divers dans l'équipe d'Acropolis. Et on n'est pas là pour vous faire de la politique partisane. On n'a rien contre, on aime beaucoup Usul, on n'a absolument aucun problème avec le fait qu'Usul est là pour vous convaincre des idées pour vous convaincre de la justesse de ses idées, aucun problème. Pareil avec, j'en sais rien, Osons Causer ou plein d'autres. Bon, y en a certains où la forme nous dérange plus que le fond, mais voilà. Mais on n'a aucun problème avec les gens qui font de la politique partisane, les gens qui ont des chaînes YouTube, j'en sais rien.
Tatiana Ventose.
Tatiana Ventouse, je sais pas. Bon, le truc, c'est que là, on cite que des gens. Je vais dire que des gens de gauche. Bref. Aucun problème avec les gens qui font de la politique partisane et qui vous vendent leur discours, qui argumentent pour leur discours. On en est capable aussi, puisqu'on a des idées, évidemment. On a des points de vue sur certains trucs, on a des opinions, etc. Nous, ce qu'on préfère, c'est vous expliquer la politique. Parce qu'on fait le pari que. Une fois qu'on vous a expliqué le jargon. Le jargon complexe et fumeux qui rend la politique compliquée et inaccessible, malheureusement. Une fois qu'on vous a expliqué le jargon, vous êtes suffisamment intelligent pour ensuite vous savoir où sont vos valeurs, où sont vos idées, où sont les argumentaires que. Enfin, pour comprendre et ensuite écouter et comprendre les argumentaires de chaque camp et ensuite être convaincu ou non par chacun des argumentaires de chaque camp. Voilà. Moi, mon boulot, c'est de vous expliquer à l'Assemblée nationale comment on fait la loi. Parce qu'une fois que vous comprenez comment on fait la loi, vous comprendrez mieux quand un tel se fout de votre gueule en disant, en faisant du populisme, etc. ou pas. Voilà. Maintenant, mais aucun problème avec les gens qui vous donnent leur avis, je veux dire. Est-ce que je change de fond dans le fond vert régulièrement? Ça dépend des émissions, mais non, en général, sur les QG, on garde les mêmes. Bon, les amis.
Oui, là, on va peut-être s'arrêter quand même.
Tout à fait, parce que là, il est 30, ça fait une heure.
Vous le relancez indéfiniment.
Et comme vous voyez, je suis une machine, on peut mettre des pièces et on termine ce live à 18h. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à nous suivre, si vous êtes nouveau sur la chaîne Acropolis, à follow là-haut pour retrouver nos prochaines émissions, on vous explique l'avis parlementaire. Moi, je vous retrouve mardi à 14h30 où on commente ce qui se passe à l'Assemblée nationale et on vous explique comment on fait la loi, les différentes séances de l'Assemblée nationale, pourquoi tel et tel député pose telle question.
Différents types d'armes aussi.
Les différents types d'armes, on fait des podcasts sur les différents types d'armes. On s'est retrouvé à faire ça par hasard parce que ça parlait des catégories d'armes pendant les questions d'actualité au gouvernement. On n'a plus de QS, c'était la dernière.
Alors, il n'y a plus de QS, ça reviendra normalement à la rentrée.
QS, c'était question, enfin, c'était, ça revient à la rentrée, mais question au sénateur, qui est une émission où on reçoit un sénateur sur un plateau et on lui pose vos questions, les questions que vous posez dans le chat, qui est très intéressant, puisqu'on a peu l'occasion de parler avec un sénateur. Mais donc, la saison est terminée pour question au sénateur.
Bah, là, de manière générale, on s'approche quand même plutôt vers la fin.
Tout à fait. Tout à fait.
Il n'y aura plus que deux émissions, du coup, maintenant. Du coup, deux, parce qu'il y a les QAG, du coup. Il n'y a qu'une seule séance par semaine, mardi, et Party Time, et c'est voilà.
Ah, et on arrête la semaine prochaine ?
Non, Party Time, ça va continuer encore jusqu'au...
Non, mais je veux dire, on ne termine pas le mois pour les QAG ?
Ah, ok, j'en sais rien pour l'instant. Pour Party Time, en tout cas, ça terminera avant la fin du mois. Pour QAG, j'en sais rien, on décidera ça entre nous. Mais de toute manière, il n'y aura plus que... Il n'y a plus QAS, il n'y a plus leur bordel, il n'y a plus qu'une seule séance de QAG par semaine. Donc,
là, on s'approche clairement vers les vacances.
C'est les vacances, là.
Donc,
rendez-vous mardi à 14h30.
On vous donne rendez-vous mardi à 14h30. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez suivre, on fait des émissions spéciales de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à suivre sur Twitter si vous voulez des infos. Hashtag Acropolis. Merci pour cette chaîne. Elle est indispensable sur le Twitch français. Je vous donnerai mon prochain prime. Eh bien, écoute, merci à toi, Sacha Derek. Et puis, merci, c'est gentil. Et à bientôt. Rendez-vous 14h30 mardi. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et à bientôt. Bisous. Ciao. Au revoir.